Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on reprend les bonnes habitudes, les sorties, les nouveautés. Après, c'est pas hyper, on n'est pas sur du triple A, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Aussi de la place pour des
exactement.
Des séries B,
tant mieux.
Ou Z.
Tant mieux. C'est cette période de l'année où on peut aller rechercher dans les entrailles des.
Et puis on n'a pas fini notre récap 2019. Hein. Il y a encore des choses qui arrivent.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est pas fini.
Ça va nous tenir jusqu'à
fin
de la saison.
Toute l'année.
Non, mais il y a d'autres choses qui arrivent, je pense, la semaine prochaine. On en reparlera, mais voilà, on n'a pas fini notre...
Moi, je vise juin pour Shenmue 3. Hein. J'aurais pas le temps avant.
Non,
je suis désolé.
Non, justement, on va faire ça assez vite.
Donc, je reprends au programme cette semaine.
On a attendu 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Bon, on peut attendre encore
voilà,
un an avant d'en parler.
3 semaines près.
On va parler de Look Inside, on va parler de Journey to the Savage Planet, de Bookbound Brigade qui vient de sortir là le jour où on enregistre, et on finira par la version Switch d'un Leisure Suite Larry Wet Dreams Don't Die.
Quel titre ?
Non, ouais.
Bon, on en parlera.
On en parlera. On peut attendre. On va en parler.
On va en parler. Hein.
On va en parler.
Bon. Je suis le seul à y avoir joué ou... Ouais, je suis le seul.
Ouais.
Ok, oui. D'accord.
Oui.
Ça
non, j'ai laissé ça dans mes vieux souvenirs. Ça va.
Le reste, vous connaissez le com des com, la chronique jeu de société de Jeremy Kletskin. Et puis, je vais commencer par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Et chroniqueuse.
Yes.
Camille Suard, bonjour Camille.
Bonjour Erwan.
On va commencer avec toi Patrick.
Des news, moi
wow.
Je suis très, pardon, oui, je suis très attentif, vous me connaissez, sur le front Resident Evil. Et on commence à avoir des bruits qui arrivent sur le fameux 8e épisode canonique qu'on attend.
C'était pas le dernier, le 7?
Bah non, pourquoi ?
Ah oui, donc
moi
en
aussi
fait,
j'ai cru que...
non,
pourquoi ?
Non, je
rigole. J'ai l'impression que le 8 il existe déjà en fait.
Alors des bruits, ça reste à confirmer, de toute façon ce sont des bruits, mais c'est aussi intéressant hein, de se faire un peu l'écho de ce qui se dit actuellement. C'est une news qui a été reprise par Eurogamer dans la semaine. Ce serait l'info comme quoi Resident Evil 8, on va l'appeler comme ça, Resident Evil à la française, hein, 8, poursuivrait sur la vue subjective. Ça serait vraiment une des pistes de développement. Alors on ne sait pas si c'est l'actuel état du projet. On parle aussi peut-être d'une version qui aurait été coupée entre deux. En tout cas, il y a eu un projet de 8e volet en vue subjective. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça montrerait que dans ce cas-là, Capcom irait vers deux branches principales. En gros, on aurait d'un côté les branches remake à la RE2 et RE3, donc qui adoptent ce passage en vue épaule qui a fait un carton sur RE2 et qui va être reprise aussi sur RE3 là, dans quelques mois. Donc ça, pour les remasters vraiment reboostés de vieux classiques. Et puis on aurait donc cette branche, on va dire next-gen, parce que le 8 sera sur la prochaine génération de consoles, ça paraît évident, avec peut-être même une option VR. Moi je serais pour le retour de la VR en vue subjective sur un 8 s'il est toujours en vue subjective. Après attention, est-ce qu'on risque pas aussi de tomber dans une sorte de routine? C'est vrai que le 7 avait fait une cassure en prenant ce parti assez risqué d'aller sur un univers assez différent du Resident, on va dire, qu'on connaît depuis toujours, quelque chose de plus organique, de plus gothique, et puis une autre forme d'horreur, je trouvais, qui était assez visuelle, et puis qui était très, très, très liée à la VR aussi, hein. Il y avait un effet vraiment lié à la vue subjective. À voir, en tout cas, c'est un bruit, c'est pas sûr, à confirmer. En tout cas, il y a eu des recherches dans ce sens-là chez Capcom, donc c'est intéressant à voir. On verra évidemment
ce qui est super intéressant.
On n'en sait rien pour l'instant. Officiellement, on n'a rien sur lui.
Mais c'est vrai que la probabilité qu'on reste sur une vue subjective est élevée parce que c'est la tendance. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant parce que d'un côté, on ne peut pas nier le fait que ça marche.
Ça marche, surtout en VR.
Mais ça marche, mais en même temps, on arrive sur, sans tomber dans les grands mots, mais sur une vision très spectaculaire de la peur.
C'est-à-dire
on est sur le jumpscare, on est sur, sur la vraie flip, même pas que le jumpscare, c'est-à-dire que la situation, la crainte,
Personnelle.
Oui, et puis la crainte qui va avec le survival horror, qui est de se demander ce qu'il y a derrière ce coin de couloir, ce qu'il y a derrière la porte, en vue subjective, prend une autre dimension.
Moi, j'ai grandi avec Resident Evil, donc j'aime vraiment beaucoup cette licence, mais le 7, j'ai pas pu le finir.
Moi, ce qui me dérange, j'ai eu
trop peur.
J'ai aimé la prise de risque à l'époque que ça représentait.
Oui.
Attention, je trouve que Capcom devient suiveur sur cette tendance vue subjective. Ils l'ont fait brillamment, c'est difficile de critiquer le 7. Le 8, attention, est-ce qu'on continue pas ? Moi, je rêve d'un remake du premier, revenir vraiment aux sources de cette mise en scène très cinéma, en fait, du qu'était le premier Resident Evil, hein, avec ce côté. Moi, je veux de la full motion vidéo en intro avec des acteurs où on n'est pas encore sûr du casting exact, etc. Moi, je trouve qu'ils ont été suiveurs sur le 7 d'une certaine façon, ils l'ont fait avec brio, mais attention, moi, je suis pour un retour vraiment presque à l'ancienne, mais avec évidemment les technologies actuelles, avec si on a
les remakes.
Oui, mais aller plus loin encore. Tu vas avoir vraiment peut-être des mouvements de caméra, des choses. Mais revenir, tu vois, sur les plans de caméra fixes de l'époque. Vraiment une relecture, ça serait fantastique de faire une relecture de l'original, mais complètement surboosté par la nouvelle génération.
Mais tu penses que c'est compatible ? Parce que c'est quand même très marqué dans le temps, c'est très vieux.
C'est très daté, il faudrait jouer avec ça.
Est-ce qu'on arriverait à jouer aujourd'hui ?
C'est toute la question. Tu peux imaginer un Eternal Darkness, il y avait eu des choses aussi. Tu vois, il y a des jeux qui ont su questionner cette représentation un peu old school, c'est vrai, mais tu peux jouer avec les effets de caméra. Ils ont la techno, enfin, quand tu vois RE2, le RE3 qui arrive, ils ont les technos. C'est qu'une question, tu vois, après, de mise en scène, de façon de travailler les plans.
C'est aussi une prise de risque, et c'est ce que tu dis, c'est qu'avec ce côté vue subjective et vision hyper spectaculaire de la peur, RE7 suivait évidemment tous les jeux, j'ai plus les noms, mais il y en a eu des séries comme
bien
ça
sûr,
de jeux en vue subjective ultra flippant. C'est une vision, on va dire, sans du tout être méprisant, mais c'est une vision Twitch du film.
Moins cinématographique.
C'est la vision Twitch et YouTube. Regarder des gens jouer à RE7, c'est aussi flippant que jouer soi-même à RE7. Mais c'est marrant. Parce que ça génère du spectacle. Ça génère du spectacle dans les interactions entre les gens et le jeu.
Ils savaient que ça marcherait sans doute. Parce que déjà, avec la démo Silent Hills, tout le monde avait joué, mis ça sur Twitch ou YouTube et ça avait fait
et ils ont eu la chance, Capcom, tu as raison là-dessus, c'est de ne pas avoir Pity en face, qui à mon avis avait une vision de l'horreur peut-être plus artistique, plus subtile, on l'a vu.
On était un peu plus dans la psychose que dans l'horreur pure et dure.
Plus intérieure et en vue subjective. Donc en tout cas, ça pose des questions, on verra. Je suis évidemment friand de voir ce que ça va donner. Et puis une autre news, évidemment, je vous l'ai toujours dit, je suis fasciné par les premières annonces de consoles. Vous savez, quand on parle des noms de code, la Révolution, la Dolphin. Et puis y a aussi quand les consoles s'en vont, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il faut savoir leur dire au revoir. Et puis aujourd'hui, c'est une de ces news un petit peu plus tristes où on dit au revoir à la Wii. On vient d'apprendre en fait que fin mars, le service de réparation de la Wii au Japon s'arrêtait. Je pense que ces gens sont aussi occupés par le Joy-Con qui tombe quand même pas mal en panne, donc je pense qu'ils ont du travail. Mais en dehors de ça, évidemment, c'est un problème de sourcing des pièces détachées. C'est une console qui a quand même 13 ans passé, qui va sur ses 14 ans, donc les pièces sont évidemment très datées, 13 ans plus tard. Donc en gros, si vous avez une Wii qui tombe en panne, ça va être compliqué de la faire réparer parce que Nintendo, on n'a pas d'infos pour l'Europe, mais je pense que ça va suivre, c'est pas complètement logique. Donc c'est quand même une de ces consoles, il faut resituer ça, qu'elle soit une étiquette de machine un peu grand public. Elle ne se limite pas à ça, il y a eu des très belles choses dessus. Moi je vous invite à aller faire un tour dans les magasins d'occasion, on trouve plein de jeux aujourd'hui qui ne valent quasiment plus rien. Si vous avez un peu de chance, moi je vous conseille essayer de tomber sur un Zack & Wiki qui était quand même un point and click fabuleux avec la Wiimote. Il y a des jeux comme Mad World ou des ou la compile Mad Dog McCree aussi pour les voilà les jeux de tir. Ne regardez pas comme ça. Mais non, il y a des belles choses.
J'ai très bons souvenirs de Wii. Et puis c'était aussi le partage de jouer tous ensemble.
Et complètement, puisque quand même une de ces bécanes qui est rentrée dans le club fermé des plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un petit club, hein. Ils se tutoient, ils sont pas beaucoup. Elle est dedans. Donc voilà, on lui dit au revoir. Faut rappeler aussi que la Wii U est compatible. Donc si vous avez une Wii U, de toute façon, vous pouvez
Et rappelons que le dernier jeu commercial sorti sur la Wii, c'était Just Dance 2020. Il n'y a pas si longtemps, mais ils avaient annoncé que c'était le dernier Just Dance qui sortait sur la Wii. Donc c'est pour ça, Nintendo a vu, il n'y a plus de Just Dance.
C'est symbolique, parce que c'est quand même la console qui a fait exploser cette série de Just Dance. Ouais. C'est la Wii à l'époque.
Il y a la poule et l'œuf. Hein. Est-ce que Just Dance n'est pas la seule application du motion gaming qui résiste autant?
T'en as d'autres expérimentations. Tous les jeux Nintendo, les Wii Sports, les machins.
Qui résistent autant.
Tu veux dans les ventes qui sortent encore. Ah oui, c'est le dernier éditeur tiers qui sort encore dessus, c'est clair.
Donc, est-ce que c'est la Wii qui a fait émerger Just Dance ou c'est Just Dance qui a fait survivre la Wii?
Je pense qu'ils ont su bien rebondir sur les caractéristiques de la console à l'époque. Mais en tout cas, oui, ils l'ont soutenu. Là, ils arrêtent. Donc, en tout cas, on dit au revoir à la Wii. Puis, plein de bons souvenirs. Si vous avez d'ailleurs des souvenirs, vous auditeurs, n'hésitez pas à nous les partager, parce qu'il y a eu des très belles choses sur cette bécane. Je me rappelle les Resident Evil qui sont sortis, les portages GameCube. Déjà à l'époque, il y avait les portages GameCube qui arrivaient sur Wii, donc on pouvait les refaire sur... Bref.
On reste chez Nintendo, ouais. Donc la Wii s'arrête, la Switch continue.
Elle continue, et du coup, on a reçu les derniers chiffres du trimestre 2019. Du coup, 10,81 millions pour ce dernier trimestre, un total de 20,21 millions en 2019 contre 17,4 millions en 2018, qui fait un total depuis du coup sa commercialisation de 52,48 millions, qui a aussi profité d'un bon coup de pouce avec le démarrage historique des derniers Pokémon. Pour rappel, en 2009, la Wii, la DS, c'était 20 millions. Pour une année.
D'accord. Donc c'est à peu près comparable en fait.
Ça a dépassé la Super Nintendo qui était arrivée au total 49,10 millions. En total.
Ça y est, elle a passé le cap. Maintenant, le cap Super NES.
Il faudra dépasser la NES.
C'est quand même balèze.
Il y a combien la NES?
Je sais plus.
Non, la NES, elle est à beaucoup. Hein.
Après, de toute façon, on voit la Wii à 100 millions, un autre cap très important. Puis après, il y a la PS2 à 150 ou la DS qui est à 150.
Et
aussi.
La Lite, c'est 10% à peu près du total.
Ça prend. Enfin, oui.
La Lite ne prend pas. Hein,
Elle ne prend pas plus que ça. Après, il faut le temps, elle vient de sortir.
Oui,
c'est normal que le parc soit plus classique que Lite, mais on sent que ça a du mal quand même à. Ce qui est normal,
sachant que les gros, enfin il y a quand même des gros jeux Switch comme Mario Kart, c'est quand même mieux de pouvoir mettre la console en docké pour jouer à plusieurs.
Et là je crois que c'était Pokémon qui était quand même le jeu pour la portable aussi, le Pokémon qui vient de sortir. Donc il faudra voir aussi l'effet Pokémon à long terme, mais oui, ça va être compliqué, je pense, de.
Mais ceci dit, c'est bien qu'elle existe. Hein. Mais bon, bref.
Bien qu'elle existe. Ouais. Est-ce qu'il y aura une pro? Alors, ça, c'était la question qu'on se posait il n'y a encore pas très longtemps. Y aura-t-il une pro bientôt?
Dans la série, je m'appelle le CD Projekt Red et je ne suis pas serein.
N'est-ce pas?
Eux, de leur côté, ils ont fait appel. C'est sorti cette semaine à Kulok, un studio voisin d'anciens de CD Projekt Red, qui était reconnu notamment pour faire du portage. Ouais. Du portage de jeux. Donc, on sait que CD Projekt Red, ils ont annoncé qu'ils étaient embêtés avec la Xbox One. Ils avaient du mal à développer. Sur Cyberpunk.
Pourquoi la One? On sait pourquoi.
On ne sait pas trop. Mais,
c'est à cause du Kinect. Ouais. Peut-être que. Non.
Je pense pas.
Je plaisantais.
Il y a ce nouveau studio. On avait émis des inquiétudes concernant ce report. Donc d'annonce que le jeu allait sortir en septembre, en disant que finalement c'est le crunch des employés qui allait être prolongé de 6 mois, hein. C'est pas pour éviter le crunch, c'est juste
c'est pas partir en vacances, revenez les idées claires,
moi j'avoue, je suis de plus en plus, alors j'aurais dû l'être avant, être mal à l'aise avec ça avant. On aurait dû être mal à l'aise au moment où j'ai
Red Dead Redemption, par exemple.
Attendez, parce que pardon, le fait qu'un studio externe vienne en renfort, il n'y a rien du tout de surprenant ou de choquant.
Non,
c'est plus ce timing. C'est plus ce timing où on l'apprend maintenant alors qu'on est en phase vraiment finale de production. Alors oui, ils travaillent depuis un moment avec eux, parce qu'en général, ces gens-là, voilà, ils travaillent en flux tendu et c'est normal que c'est normal que tu externalises une partie des développements. Hey. Tout ça se fait partout. Mais là, évidemment, on a des inquiétudes qui se cristallisent, comme tu dis. Je ne savais pas pour l'Xbox One, ça, tu me l'apprends, donc c'est un peu inquiétant. C'est plus le timing, c'est-à-dire qu'on se dit que le jeu est quasi fini quand même, on est en fin janvier.
Mais moi je trouve que c'est super que ces affaires de crunch time et de situation des salariés sortent et deviennent un problème public. Je trouve que du coup, c'est vrai qu'on a une relation hyper chelou à la sortie de ce jeu. C'est-à-dire factuellement, on va se dire, le jeu est attirant, on va pas se mentir. C'est grande aventure, monde ouvert, univers quand même de cette bien licence sûr. De jeu de rôle cyberpunk qui est assez légendaire. Et en même temps, il y a cette sensation de moment où on va allumer, si on l'allume, parce qu'il y aura aussi ce choix de ne pas y jouer, que si on, le moment où on lancera un jeu qui est, sans caricature, je vais pas dire qu'on aura du sang de développeur sur les mains, mais il y a ce truc là de profiter aussi en tant que consommateur, en tant que joueur de l'exploitation à outrance de salariés du jeu vidéo. Moi, je suis pas à l'aise. Je suis de moins en moins. Ouais, et tant mieux. Tant mieux que je sois de moins en moins.
Mais ils ne sont pas les seuls. Hein. On a parlé de Rockstar. Enfin, il faut pas. Voilà, tout bah, non
plus. Il y en a
focalisé
d'autres gros.
Sur eux, parce
qu'il y a rien qui est sorti encore, mais qui existe.
Hein. Et voilà, on parle beaucoup d'eux parce que le jeu est très attendu. Il y a des reports, donc il fait parler et il cristallise beaucoup de choses. Mais ils sont pas les seuls. Et
oui, mais ça n'excuse
pas. Moi, je trouve que c'est bien que ça devienne un sujet, mais je trouve que le sujet il doit encore passer une étape, c'est-à-dire ça doit encore interroger les joueurs eux-mêmes au moment ils achètent, au moment où ils jouent ce jeu-là. Et je pense que on est sur ce point-là où la question va devenir
tu ne pourras pas aborder ce jeu sans l'avoir en tête, comme quand on lançait Red Dead 2, on l'avait
on
en tête.
On l'avait pas assez en tête.
Moi, je l'avais en tête. Clairement, je me rappelle très bien lancer le jeu.
Moi, j'avais hésité.
Bien sûr que moi, j'y pensais. Ouais. Dès que tu avais une scène flamboyante, tu te disais, bah, tiens, les mecs, là, à quel prix ? Mais après, ça pose la question, quand tu as des ambitions de faire un grand jeu, je pense que c'est le cas, bon, bah, tu as. Voilà, après, ça pose plein de questions. Il faut entendre les employés, comment eux travaillent, dans quelles conditions. Tout ça, je pense, sortira plus tard. C'est toujours un peu aussi en décalé.
Ouais, mais après, on voit aussi que quand tu as l'ambition de faire un grand jeu, bah, c'est pour avoir des gros bénéfices aussi au final. Et Rockstar en a. Hein.
Tu vois, l'arrivée d'un studio renforce, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les gens qui bossent sur le jeu. C'est peut-être, eux, ils prennent en charge une partie des choses. Bon, c'est un peu
tard. Ils ont fait un Q&A en disant que.
Il y avait du crunch qui était affiché, clairement, qui était dans l'équation. C'est ça qui choque, c'est que c'est dans l'équation, alors qu'on devrait tout faire pour le retirer de l'équation.
Bah, écoute, ce week-end, au Centre Pompidou, il y a une petite conférence sur les conditions de travail dans les studios de jeux vidéo.
Ah, très bien.
Ouais.
Ah, ouais.
Ouais.
C'est cool.
Ouais.
C'est à la bibliothèque ou c'est au centre
Je sais plus, faudrait que je regarde.
Samedi, dimanche.
C'est samedi normalement.
D'accord.
Je crois.
Bon, on note.
Ouais.
Merci.
On mettra les infos. Tu me diras. Sur Twitter. Dis donc, on n'a pas commencé le programme. Vous savez qu'on n'a pas commencé le programme.
Ouais, 5 minutes.
Ça veut dire n'importe quoi. Ouais, ça, il reste 5 minutes. Le com des coms des deux dernières semaines, parce que la semaine dernière c'était donc un peu spécial. C'était on avait fait 10 ans de silence on joue.
Ah, oui.
C'était rigolo à faire. C'était beaucoup trop de travail. Hein. Mais bon, bref, c'était.
C'était bien. C'était intéressant de réécouter. C'était bien. C'était rigolo.
Ça t'a rappelé des souvenirs.
Bah, des fois, c'est crispant de re-entendre des choses des années après. Mais c'était intéressant quand tu m'as demandé, prépare-moi un petit peu. Hein. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la manière dont, effectivement, et tu l'as dit dans l'émission, vous l'avez dit avec Jérémy, c'est que tu as les jeux de l'année au moment de l'année, l'année A. Et puis, 10 ans après, c'est plus lui. C'est un autre jeu qui t'a marqué. Je reparlerai peut-être tout à l'heure de L.A. Noire pour d'autres raisons. Mais L.A. Noire, c'est un jeu, je pense qu'on a pas mal critiqué à l'époque. Et finalement, j'y rejoue encore régulièrement parce que tu as des jeux qui prennent de la patine avec le temps, et vraiment c'est avec le temps que vraiment une œuvre prend son écho. Et c'était flagrant sur ce top, et c'est toujours intéressant de se replonger là-dessus.
Kirby qui réagit donc à un truc de la semaine de la semaine d'avant et c'était assez rigolo. C'est on s'en fout un peu du nouvel Half-Life, non, parce que c'est toi qui disais j'ai oublié de parler d'Half-Life.
C'est vrai, en VR en plus, en VR.
Je veux dire, alors il continue, je veux dire, Half-Life c'est bien parce que ça a redéfini les codes du FPS, mais maintenant la licence est dans le formol depuis si longtemps que la ressortir telle quelle n'aurait pas de sens.
C'est pas faux.
Il suffit de regarder Shenmue 3. À la rigueur, si Alix, c'est lui qui le dit. Hein.
Oui.
Non, mais oui.
Si Alix redéfinit quelque chose, ce sera sur la VR, pourquoi pas, mais le public est tellement limité. Alors,
Moi je suis en colère contre ce nouveau Half-Life parce que du coup, ils ont mis de côté un projet que j'avais envie de voir, c'est Valley of the Gods. Du coup, ils ont mis ça de côté pour se concentrer sur Half-Life avec le rachat de Valve du studio. Ouais. Du coup, je suis pas contente. Voilà, je l'ai dit.
Et puis pourquoi on va s'attirer des foudres. Mais pourquoi Half-Life? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être créé des nouvelles choses? Je sais que ça paraît.
Ils ont bien fait Shenmue 3. Donc, c'est ça.
Voilà.
Autant vous dire qu'après un poste comme ça, ça a un peu enflammé les discussions.
Ah, mais ce qui est normal. Mais c'est une bonne question. Il avait raison de la poser, cette question. Je suis assez d'accord. Je pense que le jeu sera bon, Alix, à mon avis. Je pense que ces gens-là savent, ont tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu. Après, est-ce que c'est ça qu'on attendait d'Half-Life? C'est la grande question. On verra, mais bon.
Urgo réagit, non, on ne s'en fout pas, c'est le premier jeu solo de Valve depuis 8 ans. Valve qui a quand même sorti des jeux majeurs et c'est aussi le premier gros jeu VR.
Oui, parce qu'il est exclu VR. Il est vraiment taillé VR. C'est un peu cavalier de dire ça, que c'est le premier gros jeu VR. Je trouve ça un petit peu.
Oyoyo qui réagit à la semaine dernière et qui me dit merci et dit que l'exercice est difficile, choisir quelques extraits retranscrivant le cœur de l'appréciation du podcast sur tel ou tel jeu, mais aussi des punchlines un peu marquantes, comme mon chat c'est un peu Doom dans sa tête tous les jours.
C'est Yann.
Une gageure. J'ai réécouté tous ces extraits avec un sentiment de nostalgie et de réconfort très agréable. Merci encore pour ce plaisir hebdomadaire. Merci aux chroniqueurs et longue vie à Silence on Joue. Merci monsieur. J'avais envie de citer parce qu'il y en avait d'autres. Il y a même Takamine qui est un vieil auditeur, acteur dans les forums de Silence on Joue, qui avait arrêté d'écouter Silence on Joue, qui est revenu récemment et qui l'a dit dans les messages. Ça fait toujours plaisir.
Bon retour alors, et parmi nous.
Et si on commençait cette émission? Je sais même pas, j'ai même pas lancé le timer, donc je sais même pas où on en est. On va commencer avec un jeu de Unexpected, qui est le studio, alors on en avait pas parlé, on l'avait peut-être évoqué, c'est un studio lancé en 2015, je crois, par le streamer Zerator, qui avait comme ça financé à Montpellier le lancement d'un studio. Ils avaient lancé un premier jeu qui s'appelait Dwarfs, qui était sur un modèle plus ou moins free-to-play et qui n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. Et là, ils sont sur une série, je crois qu'ils sortent deux jeux en ce début 2020. Le premier d'entre eux est donc Look Inside.
Papa et maman n'ont toujours été que des parents. Grand-mère a toujours eu ses rides profondes et toutes les petites sœurs sont des gamines à jamais. On les voit pourtant souvent. On les côtoie lors des repas ou lors des grandes occasions. Peut-on voir en eux autre chose que ceux qui nous ont nourris? Que ceux qui nous ont imposé des règles et des corvées? Quand nous les observons, nous effleurons alors les motifs de leurs existences, les détails de leurs attitudes. Mais les membres de notre famille peuvent-ils se résumer dans l'accumulation de détails?
Alors, c'est assez rigolo, c'est le teaser. Alors ceux qui suivent la scène de Twitch stream auront peut-être reconnu la voix. La voix, c'est Mister MV, donc Xavier Dang, qui est le complice de Zerator depuis longtemps sur les streams. Donc c'est un peu la même bande. Ce qui est assez rigolo et ce que je trouve intéressant dans ce teaser, c'est qu'il en dit peut-être presque plus sur l'ambition du jeu que le jeu lui-même, en fait. C'est assez marrant, on va en parler. Donc c'était le teaser de le trailer donc de Look Inside, où on entend comme ça une sorte de, où il raconte un peu l'ambition de découverte comme ça des rapports familiaux et de personnages de sa famille. Alors tu as commencé Look Inside, t'as regardé à quoi ça ressemblait, Patrick, t'en penses quoi?
Déjà j'adore le style, j'aime bien le look, je trouve qu'il est très Ah bah, j'aime bien le pointé-cliqué, donc ça me parle. Il y a souvent un piège, je trouve, quand tu t'attaques à ce genre de choses, c'est de tomber dans ce qu'on appelle les hidden objects, les objets cachés. Mmh. Tu as parfois des présentations très, très simplistes, pas très belles, avec des images fixes où tu dois aller chercher un objet. C'est souvent inintéressant, tu décroches, parce que bah, moi, je ne suis pas ce joueur qui s'accroche à ce genre de... Ça plaît à certains joueurs, évidemment. Là, non, je trouve qu'il y a une finesse dans le graphique. J'adore le style visuel. Des détails tout bêtes. Tu balades ton curseur, parce que c'est ça aussi, hein, ces jeux-là. Mmh. Ton curseur, c'est toi. Donc, quand tu effleures comme ça, que ta souris, tu te balades, hop, t'as des réactions dans le décor, les objets bougent. C'est tout bête, mais tu sens qu'il y a une finesse vraiment dans le. Tu vois, dans ton. C'est important, ça, le ressenti que tu as de ton curseur, c'est comme une. L'élongation de toi-même, en fait. Mmh. C'est important, ça. Tu sens que le passage de ton curseur dans une scène a un effet. Et moi, j'adore ce côté farfouillé partout. Mais encore une fois, on n'est pas sur juste de l'objet caché. C'est-à-dire que
on est un peu sur de l'objet caché.
Dans la mécanique. Ouais. Mais dans la réalisation, je trouve que tu as vraiment quelque chose de bouger les choses. Mmh. Tu as une sorte de préhension des objets. Tu les prends, tu les balances, tu bouges des choses à droite à gauche. Tu as une sorte de préhension qui manque souvent dans les jeux, on va dire, de base de ce type-là. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire qu'on est, clairement dans une. Comment dire, au-dessus de ces standards-là, je trouve que la réalisation est élégante. Je trouve qu'elle est élégante. Oui. La musique, l'ambiance, les visuels. Je trouve qu'il y a vraiment une fraîcheur. Il y a quelque chose de très, très élégant. Voilà. C'est le mot qui me vient tout de suite quand je le prends en main. Voilà, que dire de plus ? Après, je trouve qu'il faut rentrer dans le... On est un peu balancé dedans comme ça. Il faut se débrouiller. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut me parler parce que justement, moi, je viens des jeux d'aventure un peu plus sophistiqués. Quand on a tapé des In Memoriam de Eric Viennot ou d'autres choses comme ça. On a un peu cette au même le jeu en full motion vidéo dont on a parlé de Barlow cette année, voilà, où t'es un peu, tu sais qu'il va falloir que tu fasses toi-même pas ta narration, mais que tu te débrouilles, quoi. Ça, par contre, ça peut être un peu, je pense, dérangeant pour des gens qui justement seraient plus rentrés pour le côté objet caché avec juste des successions de décors à les farfouiller. Bon, bah là, il faut quand même se prendre en main, il faut essayer de rentrer dans l'histoire et de comprendre qui sont ces différents protagonistes. Moi, j'y vois plutôt une envie de justement de réunir un peu les différents ces différents publics, tu vois, d'avoir quelque chose de moins clivant que peut-être un Barlow en full motion vidéo où là vraiment tu dois vraiment t'impliquer en termes narratifs. Là, t'as quelque chose de plus facile à prendre en main, vraiment avec ces objets. Moi, j'adore ça m'a fait penser, tu sais, aux albums pop-up tu as parfois en papier où tu as des choses à soulever, des trucs à tirer. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les choses qui sortent de l'écran, qui sortent.
T'as un des chapitres qui est vraiment
cartes, sur les photos que tu retournes, que tu touches, que tu... Et là, tu as le petit twist avec justement ces animations dans une photo, par exemple, des choses comme ça qui sont vraiment propres aux jeux vidéo, que tu n'aurais pas pu avoir dans un pop-up papier. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est vraiment ce qui, moi, m'a plu. En tout cas, c'est l'élégance de la réalisation. Voilà.
Camille.
Alors, c'est marrant parce que tu dis que du coup, ça réunit un peu différents publics. Et moi, je trouve que du coup, c'est un peu brouillon et on ne sait pas trop ce qu'il veut nous faire faire
on est un peu perdu moment.
Ouais, surtout au début mais au début bon, après voilà après, c'est le jeu aussi quoi mais
l'arbre généalogique qui peut un peu intimider
oui c'est clair
ça calme un peu l'arbre
ça fait un peu en plus tu peux superposer plusieurs images
là tu commences
à dire mince attends puis les prénoms
non mais je suis d'accord
Moi j'ai pas réussi alors après il faut peut-être que je creuse encore un peu plus j'ai pas terminé le premier épisode mais j'ai pas réussi à me sentir impliquée ni touchée en fait par cette histoire. Je me sens super loin en fait. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'au début, tu sais pas qui est qui et du coup, tu as du mal à comprendre et à t'attacher et à trouver un peu justement les liens de filiation que tu dois trouver.
Bien sûr.
Mais du coup, voilà, tu as plein de choses à faire. Donc, c'est beaucoup d'objets cachés. Et puis souvent, tu disais que c'était bien parce que tu avais toujours des petites animations, mais du coup, tu sais plus. Quand est-ce que ça fait vraiment quelque chose et quand est-ce que c'est juste de l'animation ? Du coup, tu cherches, tu pousses tout, tu cliques partout finalement et il se passe des trucs, mais c'est pas intéressant.
Ça dépend, t'as des petites énigmes, je trouve, d'objets, t'as des choses qui au sein d'une scène, tu peux avoir d'un seul coup un objet qui va devenir une énigme à lui seul en fait.
La louche. Je sais pas si vous voyez dans le carnet, il y a une louche.
Je
me suis énervée là-dessus. Ouais. Et puis t'as aussi des moments où je me suis quand même un peu agacée à m'obstiner à trouver la solution. Comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, les boissons.
Ouais. Il y a des
recettes de boissons, de café.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas fun en plus. C'est pas drôle.
En plus, il faut mettre dans l'ordre précis.
Sachant qu'il y en a quand même 6 à faire.
Ouais, c'est pas fun.
Et moi, je bloque sur le 6e, qui est le mocha.
Surtout que finalement, vu les ingrédients qu'on te propose, c'est pas la vraie recette du mocha.
En plus, c'est vrai que c'est un peu étrange. Par contre, tu as des passages réussis. Moi, j'adore toujours la mise mise en, comment dire, en abîme d'un ordinateur dans l'ordinateur.
Oui, ça j'ai beaucoup aimé.
Et ça, t'as le Mac, c'est un Mac. T'as même le petit clic du curseur.
Enfin, ça, j'aime bien.
Ça, c'est intéressant, parce que là, tu te retrouves, et ça, on l'a eu chez Barlow, on l'a eu chez Vienno aussi.
Bah, même sur les titres comme Normal Lost Phone, où tu te promenais vraiment dans l'interface, les mails, le
téléphone. Exactement, retrouver comme ça une interface, ça, c'est toujours intéressant, et ils le font. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une envie un peu de taper dans tous les...
Mais justement, dans l'ordinateur, le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais moi, je l'ai trouvé très antipathique. Du coup, ça m'a embêté d'aller fouiller son Instagram et dire « Ah ouais, moi, je suis allée là, j'ai voyagé, ça ouvre l'esprit. »
T'avais pas le moteur de la recherche d'une enquête qu'on peut avoir dans un truc policier, quoi.
Ouais, donc en fait, Look Inside, c'est, pour reprendre un peu les bases, c'est qu'il y a un arbre généalogique à remplir. On sent que c'est très bien, on a juste donc on joue le rôle d'une petite... Enfin, de la petite fille d'une lignée qui trouve un cahier avec plusieurs personnages, et le but du jeu, alors c'est assez étrange parce qu'on joue le rôle de cette fille-là qui ouvre le cahier, mais en même temps on doit reconstituer son propre arbre généalogique.
Oui, enfin, c'est très expédié, c'est « Oh, je vais aller chercher quelque chose dans le grenier !» Bam, bouf, paf, allez, débrouille-toi.
C'est pour ça que ce que je disais, c'était assez rigolo, c'est que ce trailer en disait plus... sur l'univers narratif.
J'ai du mal à reconnaître le jeu là en écoutant.
Oui, voilà. et sur l'ambition de Look Inside que le jeu lui-même. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez représentatif d'une sorte de peut-être de maladresse ou d'ambition où on ne sait pas où ils vont. C'est-à-dire, c'est ce que
tu disais.
Entre Hidden Object. Entre Pixel Hunting, Hidden Object, donc des jeux, non-jeux, assez contemplatifs.
Pour moi, on n'est pas en zombie, là, attention, c'est pas ce que
mais
je disais.
C'est entre ça et le puzzle narratif à la Normal Lost Phone, dont le design rappelle aussi.
Le design de
Look Inside, dessiné, un peu animé, tout ça, rappelle les propositions de Normal Lost Phone. Et donc, à un moment, j'ai eu l'impression que le truc était... un peu le cul entre deux chaises, et en plus, avec... il y a un truc qui m'a gêné, c'est la proposition qui est « relax ». Surtout vous pressez pas, pas de stress.
Alors moi au début je cliquais partout, j'étais non mais moi je suis comme ça, donc j'ai du mal à...
Disons, tu sortais de quel jeu aussi, Camille?
Dans
quel état d'esprit as-tu abordé cette enquête?
J'ai trouvé ça étonnant d'invoquer en introduction le fait que le jeu allait être reposant, surtout chill. Alors qu'en fait c'est une conclusion, tu peux pas demander à un joueur, surtout dans un système de hidden object, de trouver des trucs, d'être chill. C'est pas une obligation. D'où on est chill? D'où je suis chill? Moi, j'ai pas envie. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie. Des fois, j'ai pas envie. Donc, tu peux pas imposer ça. Enfin,
une forme de...
Ça existe pas. L'injonction à être chill, ça existe pas.
En condition.
Moi, pour moi, ce qui manque plus, c'est un moteur narratif. C'est un déclencheur. C'est le truc qui va te lancer sur la piste. Alors, pas d'inclure en série ou autre. On n'est pas chez In Memoriam, mais... Tu sais, l'étincelle qui va te donner, et je pense que Camille, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il manque le truc qui fait que tu as un lien vraiment qui va t'embarquer là-dedans.
T'as envie de savoir.
Moi, j'ai l'impression que les scènes fonctionnent pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'être plongé dans une scène,
c'est un
mini-jeu physique.
Il n'y a rien qui rattache à l'ensemble.
Après, c'est décousu. Voilà. Ouais. On est sur un premier.
Après, c'est le premier épisode, ça se trouve.
Mais c'est important parce qu'il faut aussi. Je pense que c'est ce qui peut manquer. C'est le
la voix du narrateur, c'est un peu mou.
Et elle se déclenche trop rarement.
Ouais. Quand elle arrive, tu fais mais quoi?
Oui, c'est ça, de quoi tu me parles? Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est Telling Lies, pour revenir au meilleur puzzle narratif à ce jour. Telling Lies, on rappelle, il y avait le mot, je crois, c'était amour dans le moteur de recherche.
Oui, c'était amour.
Ça déclenchait 4 vidéos. En 4 vidéos, t'étais parti pour 10 heures, plusieurs heures, parce que
tu détricotais,
ces 4 vidéos-là, ce lancement-là, et ben, en fait, quand on parle de puzzle narratif, tu sais, c'est comme quand tu fais un puzzle, tu vois le dessin, grosso modo, sur ce que tu sais que tu vas arriver à un truc cohérent et tu as envie d'y arriver. C'est
il faut happer le joueur très vite, il faut le happer, il faut l'emmener.
Et tu as envie de découvrir les...
Pourtant, tu es tout aussi perdu dans Telling Lies au début.
Évidemment.
Hein. Mais il y a quelque chose qui t'accroche. Tu es
complètement paumé dans Telling Lies au début. Et... Ça peut être butant même. Mais,
ouais. Mais tu as trop envie de savoir tout de suite.
Puis tu as ce rapport aux acteurs avec la full motion vidéo qui fait que de toute façon, tu as quelque chose de quasiment charnel.
Mais. Je trouve que dans Look Inside, il y a une maladresse un peu à l'origine, une maladresse originelle en fait de ce jeu-là.
Structurelle, moi je dirais.
Ouais, structurelle.
Plus que dans la démonstration qui pour moi fonctionne, c'est plus dans la structure.
Et alors c'est rigolo parce que il y a des moments. Alors moi, tu vois, la première session de jeu, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu crispé parce que cette maladresse-là me gênait parce que j'étais pourquoi vous avez fait ça comme ça. Et en fait, la deuxième fois. J'étais peut-être la deuxième session de jeu, j'étais peut-être plus dans un état d'esprit plus reposé, on va dire, plus en cohérence avec la
buvez un grand verre d'eau avant de vous y mettre, vous faites le vide 5 minutes, vous reposez, vous respirez et vous lancez.
Non, mais j'avais déjà identifié la maladresse, donc je pouvais pas la réidentifier, elle était toujours là, et en même temps, j'ai profité peut-être plus des belles petites trouvailles, comme vous l'avez dit, sur l'ordinateur où on découvre la personnalité d'un personnage.
La carte à gratter.
La carte à gratter, quelques petits les photos, les objets.
Les décors. Il y a de la poésie parfois. Je trouve qu'il y a des moments de poésie un peu à Michel Gondry. Tu as des choses un peu surréalistes même qui arrivent à l'écran.
Et c'est marrant parce que ces petits moments sont super agréables. Et en même temps, ils disent mais pourquoi justement s'il n'y avait pas cette maladresse originelle structurelle, ces petits moments pourraient faire un grand jeu.
Ouais.
C'est en fait, ce sont les moments.
Il manque un truc comme ça, un truc
qui relie tout.
C'est que pour moi, les tableaux sont réussis, les énigmes dans les tableaux fonctionnent bien. C'est le lion
qui prend pas
chez nous en tout cas.
Et il y a un truc idiot, c'est que donc cet arbre généalogique, on a que la jeune fille qui est remplie, et a priori il y a ses parents, ses grands-parents, oncles, tantes et cousins à remplir. Moi j'ai joué, j'ai fait beaucoup de tableaux, j'ai trouvé plein d'énigmes, j'ai trouvé des personnages, j'ai trouvé tout ça, j'ai placé personne.
Bah ouais, pareil.
J'ai
placé personne.
Pareil, au début j'ai essayé un truc, je fais mais non mais.
J'ai aucune certitude sur aucun des personnages.
Ouais. Et ça c'est vrai que
Tu retiens pas les noms.
Et ça le côté gratifiant dans un jeu, c'est important, surtout dans un jeu d'aventure qui se veut
l'impression
comme ça accessible.
C'est pour ça que du coup t'as l'impression d'enchaîner les petits
les objets,
jeux sans faire le lien avec l'histoire.
Et les objets cachés justement qui sont moins bons pour moi, moins intéressants, mais ils jouent vachement là-dessus sur la gratification du joueur. On lui donne des bonbons parce qu'il gagne, il avance. Et ça, c'est important de, tu vois, renvoyer des trucs aux joueurs.
Mais après, c'est le premier épisode, donc je sais
Alors,
pas.
C'est le premier épisode.
Est-ce que l'arbre généalogique, c'est tous les épisodes, c'est l'ensemble du jeu? C'est ça aussi, ça dépend aussi de ça, je pense.
Mais donc voilà, c'est Look Inside. J'ai même pas le prix dans mes notes, mais je crois que c'est pas très très cher. 6 euros, quelque
je crois
chose.
Que c'est 7, ouais.
Ouais, 6, 7 euros. Sur Steam, premier épisode annoncé. On espère qu'il y en aura d'autres parce que voilà,
il y
a cette sincérité quand même qu'on peut pas leur enlever.
Et puis la réalisation, les scènes en elles-mêmes sont réussis.
Et des belles trouvailles. C'est d'autant plus énervant.
Ouais, une poésie, je trouve, dans les...
C'est frustrant.
Ouais, c'est ça. On continue avec qui? On continue avec Jérémy Kletzkin, qui était en studio la semaine dernière. On était en duo. Et cette fois-ci, il n'est plus en studio. C'est sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy.
Salut, Erwan. Alors, cette semaine, encore du rattrapage avec un jeu dont je veux absolument te parler. Last Bastion, le dernier bastion. Qui est un jeu assez atypique pour cette chronique pour trois raisons. La première, c'est que c'est un jeu coopératif sans traître, sans rien, donc ça en général j'aime pas trop. La deuxième raison c'est que c'est un jeu de gestion de crise et j'ai assez de problèmes sur la gueule comme ça, ça me va, merci. Et la troisième c'est que c'est un jeu très difficile et donc on va tous perdre. On va perdre la première partie, on va perdre la seconde partie et après on va peut-être commencer à gagner. Donc quand on va pas au bout de l'effort, ça vous fait des soirées un peu de merde. Parce que moi je trouve que quand on a passé 3 heures sur un jeu, c'est mieux quand il y en a au moins un qui ressort avec un sourire. Mais malgré tout ça, ce jeu, moi, je l'aime vraiment. Déjà parce que la mécanique de jeu, elle est sublime. Le game design, c'est du grand art. Ensuite, c'est un petit peu l'effet Dark Souls comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perd, bah, on a compris quelque chose en plus. On a tout de suite envie de réessayer, puis on se sent progresser. Et c'est un sentiment qu'on partage avec les joueurs autour de la table, qui est unique à notre groupe, quelque chose que Dark Souls ne peut pas proposer. Et enfin, la réalisation, pour ce prix, ce matériel, waouh. Vous le trouverez aux alentours de 40 euros, il y a des figurines de partout, des dés, des cartes, c'est extrêmement joli et coloré et agréable. Au début, chaque joueur va choisir un héros parmi 8 qu'il va garder jusqu'au bout de la partie. Les joueurs se déplaceront sur une grille de 3x3 au centre qui est le bastion, la forteresse. Et puis autour, à l'extérieur des 4 murs de la forteresse, il y a les plateaux individuels des joueurs. Il y a un deck de 50 cartes monstres qu'on va poser sur 3 emplacements le long de chaque mur. Les joueurs vont donc se promener sur les cases de la forteresse qui vont leur permettre d'obtenir 9 bonus différents et aussi pour attaquer les cartes adjacentes des 4 côtés du bastion. Et donc on est en mode stress permanent, survie. Certaines créatures vont générer des combos en chaîne, il va falloir essayer de regagner de la vie, récupérer certains équipements qui ne seront utiles que sur certains types de monstres, et il faudra tenir puisque l'une des dernières cartes de la horde sera un seigneur, et c'est uniquement lorsque vous le tuerez que vous aurez gagné la partie. Enfin voilà, si vous êtes pompier, si vous avez apprécié le premier Game & Watch, si vous aimez vous faire engueuler, si vous aimez le sentiment en équipe du dur devoir accompli, alors il faut jouer à Last Bastion. C'est un jeu qui procure de vraies émotions. L'auteur, le génial Antoine Boza, de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est édité chez Repoprod et moi, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que je n'ai pas ma place ici à Silence on joue. Parce que quand on joue à un jeu de plateau, ben, le silence, il n'y en a pas. Bye bye.
Belle conclusion.
Non mais personne parmi nous n'est silencieux quand il joue.
T'inquiète,
c'est normal. Ouais. Même dans le jeu vidéo, c'est même pire peut-être. Ouais.
Mais c'est vrai que dans les jeux de plateau, c'est...
Ah bah c'est normal. Mais ça serait triste.
Bah oui. Oui.
Ouais. Ah oui, j'imagine l'ambiance.
T'inquiète, Jérémy, tout va bien.
Les pions se déplacent.
le
bruit des cartes.
Le plastique sur le ouais. Carton.
Le cloque.
C'est clair.
Allez, on part en voyage très très loin, on part en voyage dans l'espace, on part en voyage sur une planète avec un numéro et des chiffres, je ne l'ai pas noté non plus, mais c'est pas très intéressant, c'est Journey to the Savage Planet. Let your pioneering spirit guide you as you set foot on a previously unexplored world. Remember though that we could only afford enough fuel for a one-way trip. So get out there, take those space lemons, and make space lemonade. Assuming you survive your first night, you'll awaken to a world with so much to explore. These are memories to cherish, to hold close to your bosom as the cold touch of old age darkens even the most precious of memories. So scan and log everything you discover. These succulent morsels of data will contribute to Kindred's moderate but respectable expansion across the cosmos. C'est assez représentatif de l'ambiance, ce petit trailer. C'est une annonce de Kindred Aerospace qui nous envoie dans un vaisseau en mode aller simple pour aller explorer l'univers et trouver une nouvelle, un nouveau terrain de jeu pour l'humanité.
Je peux faire une petite parenthèse. Avant même d'attaquer le jeu en lui-même, je tiens à saluer la qualité des séquences en full motion vidéo intégrées au jeu qui sont... à mourir de rire. Mais vraiment, elles sont fantastiques.
Les publicités...
L'acteur qui joue l'accueil, en fait, le type qui te briefe au début, déjà, il est incroyable, l'acteur, il est dingue. Et alors, les spots de pub que tu vois à la télé, sur ton moniteur dans le vaisseau spatial, c'est à mourir de rire. Il y a la celle sur le centre commercial avec des petits bonhommes
mais
que
oui,
tu mets...
Mais oui, tu les mets dans l'eau et puis
ça,
hop,
t'as le plat cuisiné, une espèce de pâte informe, horrible.
Les déchets de viande.
Ah oui, tu crées un petit peu... Non mais voyez... Alors je dirais pas que ça légitime l'achat du jeu, mais limite... Les séquences vidéo sont incroyables.
Ah non, mais c'est complètement
incroyable,
complètement
culte, mais culte d'entrée. Voilà, je tenais.
Mais même quand tu choisis ton personnage au début, c'est complètement n'importe quoi. Tu peux.
Séquences vidéo, elles sont folles. Mais c'est rare que tu vois que la vidéo est utilisée comme ça avec un côté complètement barré. Borderlands, je le fais en audio, et là, t'as vraiment de la vidéo.
En plus, c'est bien abrutissant. Enfin, c'est parfait, quoi.
Mais oui, le truc de viande. Le truc de viande, je dis mais c'est pas possible. Regardez si vous voulez les trucs. Je sais pas, ça sont dispo sur les réseaux.
On est dans la lignée totale de Robocop, enfin.
Ah au moins, c'est ça, c'est bah,
pour moi,
parodique Starship Troopers and Commodore, du Verhoeven, quoi, complètement.
Ça fait très parodique.
Extraordinaire ces séquences vidéo. Ouais. Je ferme la parenthèse, mais il fallait le saluer.
Mais on va en reparler.
Mais oui.
On va en reparler. Parce qu'on est obligé d'en reparler. Mais pour parler du jeu en lui-même, Journey to the Savage Planet, donc jeu d'exploration. Alors, c'est assez marrant parce que... mais je crois que c'est pour l'émission de la semaine dernière. Tu étais dedans cette émission de la semaine dernière parce que on parlait de Outer Wilds.
Ouais.
Et pour lancer Outer Wilds, t'avais dit c'est un No Man's Sky réussi.
Et en fait, là c'est l'anti No Man's Sky un peu.
Ouais, mais on a cette impression comme Outer Wilds. Alors c'est une proposition totalement différente, mais vraiment totalement différente d'Outer Wilds.
Ah oui.
Mais pour les gens qui ont joué, en tout cas la première version de No Man's Sky, on peut se dire que c'est et Outer Wilds et Journey to the Savage Planet à son échelle, c'est des développeurs qui n'ont été pas du tout contents du résultat de No Man's Sky et qui avaient envie de faire leur propre proposition. Là, Outer Wilds, c'était la partie exploration dans l'espace et sur les planètes. Et là, c'est une fois qu'on a atterri sur une planète... Moi, ça m'a rappelé...
On reste sur une planète.
Sur une planète.
Parce qu'on galère, qu'on n'a pas de carburant pour repartir. C'est un peu... Enfin, voilà, c'est le pitch.
Non, et puis c'est très coloré aussi. Mmh. Donc, moi, je me rappelle les premières images de No Man's Sky. Coloré. T'avais
avec
plein
des animaux
très étranges. Mmh. Ben là, c'est ce qu'on retrouve.
Un exotisme spatial.
Ah ouais, complètement, quoi.
Donc, Camille, ce Journey to the Savage Planet.
Ouais.
Ok.
Non.
Est-ce que t'as cliqué frénétiquement aussi sur celui-ci ?
Non,
est-ce que
tu
étais vénère aussi ou pas ?
Voilà, c'est un jeu d'exploration très sympa, très coloré, avec un humour complètement décalé, comme tu disais déjà, rien qu'avec les publicités. Avec du coup, là, on ne l'a pas entendu, mais quand tu joues en version française, en fait, c'est un accent canadien.
Ah, ouais, québécois.
Il est génial. En plus, tu peux choisir, parce qu'en fait, tu as une petite voix qui te parle. Enfin, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais disons que tu as une sorte d'assistant vocal qui te parle et qui te dit « Ah, faut faire ça, t'as vu, il y a ça, machin ». Et du coup, tu peux choisir soit il parle presque pas, soit il parle, il donne quelques indications, soit il est super bavard. Moi, je l'ai mis super bavard parce que c'est vraiment un délice.
L'accent contribue.
Mais oui, et ça va très bien avec le côté.
Ça fait décaler. Non, mais ça contribue à quelque chose qui sort des casiers habituels. Quoi. Tu sens que t'es sur un jeu spécial.
Ouais, mais moi, du coup, je n'ai pas du tout trouvé ça décalé, entre guillemets. J'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant.
Oui, c'est chantant,
c'est ça,
en fait.
Oui, oui.
Non, et puis d'avoir, l'accent québécois autant de validité que l'accent
parisien. Ah oui, totalement.
Parisien.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà, ça fait.
Moi, c'est un accent
bien.
Que j'aime beaucoup. Oui, je trouve que c'est. Enfin,
c'est drôle quand c'est un ordinateur qui te parle comme ça pendant toute la partie. C'est drôle. C'est vrai que c'est excellent.
Ouais, mais au début, alors j'étais vraiment très contente parce que il y avait un côté très vraiment d'exploration, tu te promènes, tu découvres plein de choses. Bon, t'as des bébêtes un peu bizarres qui sont inoffensives, qui font des bruits très étranges.
Oh, ça dépend ce que tu leur
couleurs.
Fais aussi. Hein.
Tu te promènes, voilà, t'es là pour découvrir la faune et la flore, tu scannes, enfin jusque-là tout va bien, tu te promènes.
Et puis l'imprimante 3D.
L'imprimante 3D, parce qu'il y a aussi. Faut savoir que le but, c'est aussi de trouver, d'enquêter et de voir un peu qu'est-ce qui vit sur cette planète, mais aussi de trouver un peu. Du matériel pour réparer ton vaisseau. Mais en fait, plus tu avances, plus tu découvres des bêtes étranges. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé qui m'a moins plu. Ce sont les combats. Je trouvais que c'était en trop, en fait. Moi, j'avais envie juste de me promener, de visiter tout ce qu'il y avait à visiter. Et en fait, les combats, ils sont venus un peu...
Ils se greffent peu à peu, c'est vrai que tu les découvres au bout de
deux heures
de jeu, tu commences à avoir
Au début, t'es pas très bien équipé, donc tu galères un peu. Et d'un seul coup, t'as trois monstres qui sont là. Et je trouve que niveau maniabilité, c'était vraiment pas fou, quoi. Les combats, ils sont tellement bordéliques que tu prends... T'as du mal à...
Mais
à t'en sortir.
C'est surtout, t'as aucune envie. Les combats.
Ça m'a vraiment surpris le fait qu'il y ait des combats.
Encore un problème de fil rouge et de motivation pour aller.
C'est-à-dire que t'as les jeux de tir où les trajets et l'exploration sont une étape entre chaque combat qui sont la motivation. T'es là pour défourailler et tout ça. Et t'as les jeux d'exploration. Où là, du coup, le combat devient devient une
surcouche. C'est une sorte de surcouche qui vient.
Ça devient un obstacle. Ça devient
une agression.
Une agression et un obstacle pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est obligé. C'est un passage obligé, désagréable. Qui en plus le truc est pas avare d'autres. Challenge. Il y a un côté Metroidvania dans le côté où on va débloquer, on va accéder à des nouvelles
lieux. Après, t'as le jetpack.
Et surtout, très Metroid, c'est les primes où tu scannais. C'est vrai que là, on scanne beaucoup.
Ça, j'aime bien.
Comme dans Starlink aussi, on scannait beaucoup. T'as beaucoup de scans. Ça, c'est un rapport à l'environnement qui est très propre aussi au Metroid Prime.
Donc, on est totalement dans de l'exploration. Que vient faire le flingue et alors le flingue a tout à fait sa raison d'être.
Mais, oui, bien sûr.
Mais que viennent faire ces monstres volants.
Ça gâche vraiment la proposition de départ qui était vraiment sympa, quoi.
Tout à fait.
Et du coup, je suis un peu moi.
Moi, je le trouve entraînant. Bah, c'est ce qui m'a marqué en lançant comme ça. Bah, déjà, t'as un cachet visuel. Bon, déjà, t'as ces séquences full motion vidéo qui m'ont emmené directement. Non, mais une fois lancé le jeu, je trouve. Moi, en plus, je joue sur un PC qui date un peu.
Tu joues sur PC ?
Sur PC.
Tu joues avec la souris et le clavier.
Souris, clavier. D'accord. Et je trouve qu'il est super bien optimisé. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super boulot et j'ai gratté un petit peu. Et en fait, c'est le studio Typhoon. C'est des anciens de Ubisoft. Il y a Alex Hutchinson. Moi, je l'avais rencontré à l'époque sur Far Cry 4 chez Ubi. Il a bossé sur Assassin's 3 et sur Duke Nukem Advance, je suis allé voir ça, qui était une bonne version. C'est un studio fait par des anciens de EA, Ubi, Warner aussi, je crois. Donc c'est des pointures, les gens qui ont fait ce jeu. Et tu le sens, quand tu le lances, tu sens qu'il y a une finition. Tu as une générosité visuelle, c'est clinquant, mais c'est clinquant dans le bon sens. C'est-à-dire que tu as plein d'effets visuels, même quand
Les champignons,
mais ça c'est génial. L'effet visuel que tu prends à ce moment-là, tu as l'humour qui. C'est tout bête, mais moi je trouve qu'il y a un moteur. On parlait de moteur, tu as quand même ce moteur début, parce que tu as une situation déjà baroque avec ces vidéos complètement cinglées où tu te dis, mais il y a un truc, ce jeu, il rentre pas dans les cases. C'est pour ça que je parlais des cases tout à l'heure, on rentre pas là-dedans, tu vois. Il y a l'accent de l'IA qui te parle, tu as ces vidéos complètement verovenesques. Une fois dans le jeu, je trouve que vraiment c'est bien huilé, t'es vraiment emmené, t'as quelque chose qui marche bien avec ce sorte de monde ouvert comme ça qui s'ouvre et où tu vas aller comme ça picorer à droite à gauche. T'as des missions qui peuvent s'ouvrir à droite à gauche, des petites missions qui s'enclenchent. Donc en fait, tu sens que les gens qui ont fait ça ont capté plein d'influences. Je trouve que t'as Far Cry, ça paraît évident. Tu as Metroid Prime, je pensais beaucoup au Metroid. Ouais. Le Metroidvania est quand même une composante très importante du jeu, avec ses passerelles que tu vois en disant « Ah, ça, il va falloir que j'accupère le dessin pour faire avec mon imprimante 3D.
Le
fameux grappin qui est toujours une sorte de truc à obtenir dans les jeux. Tu deviens tout puissant quand t'as le grappin, c'est bien connu. Hein, c'est dans la vie de tous les jours, quand t'as un grappin, t'es tout puissant. Tu sens, en tout cas, je trouve que ça fonctionne bien. Tu sais, il sait te montrer des passages qui sont inaccessibles au début et qui vont te donner envie de progresser pour aller voir. T'as des systèmes aussi de choses cachées avec des petits indices. J'ai envie de dire, le jeu, tu sens qu'il n'est pas là pour réinventer la roue du tout, mais pour moi, il concocte une recette qui marche bien, il y a un cocktail. Alors, vous parliez des séquences de baston, oui, tu sens qu'il y a une surcouche qui a été ajoutée parce qu'il faut, et je pense que proposer quelque chose... Il y a un trauma No Man's Sky aussi, je pense, pour les gens qui se positionnent sur ce segment de l'open world exotique sur une planète. Il y a un trauma No Man's Sky, il y a le trauma du vide. Parce que là, effectivement, tu croises des petites bestioles, c'est marrant, parce que si t'es gentil avec eux, tout se passe bien, ils ont une tronche en plus, puis dès que tu commences à... Si tu as une touche un peu malheureuse, et ça dégénère, ils s'attaquent à toi. T'as un écosystème intéressant. Je pense, effectivement, les combats, c'est une surcouche qui pourrait être, si elle n'y était pas, pourrait être décevant pour des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin de ça aussi, qui veulent ça, je veux dire, quand t'es dans un jeu...
Ouais, mais là j'ai l'impression,
de Man's Sky,
j'ai l'impression que on n'est pas dans la réunion 47 de conception de ce jeu. Oui, il y a eu cette discussion là dans cette réunion.
C'est clair.
Dans cette réunion là, il y a un mec qui a dit ah non mais il faut des combats.
Et ça transpire.
Autrement il y a des joueurs, ils vont se remmerder.
Mais c'est ça.
Ouais, sauf que ce mec là a tort.
Non mais il faudrait qu'on creuse comment on a joué. Il faudrait voir est-ce qu'on peut ne pas éviter complètement les combats, mais je ne pense pas parce que ça fait vraiment partie de la. T'as pas le choix. Ça aurait été intéressant justement de laisser la possibilité de ou d'y aller ou pas. À ma connaissance, non.
A priori, c'est pas... Venir et tout et saccager une planète et ses ressources ou venir juste explorer quoi.
Ouais, ouais.
Mais c'est... peut-être que sur ordinateur, les combats, ça, c'est peut-être un peu plus facile à prendre en main. Je sais pas.
Non.
Moi, j'étais
ah bah non,
sur manette.
Non, c'est non.
Non, mais avec la souris, je sais pas. Pour,
Non, puis je souligne, moi, je suis quand même sur une antiquité. Hein, sur un, je suis pas sur un 386, mais presque. Donc, je souligne que le jeu est bien optimisé. Vraiment, il tourne très bien.
Moi, j'y joue sur Xbox.
Mais non, ça change pas grand-chose. Okay. Donc...
Alors moi,
c'est vulgaire peut-être le combat, c'est ça. Il y a une sorte de vulgarité qui vient sur quelque chose qui était plus.
Mais non, mais c'est une violence non nécessaire. Quoi.
C'est inutile, mal branlé et enfin voilà, c'est inutile
pieuvres,
et mal fait.
Les pieuvres, les
pieuvres, les autres. Alors moi, c'est très étonnant parce que je trouve que Journey to the Savage Planet est un jeu scolaire à peu près à tous les points de vue, mais très scolaire. Très scolaire, c'est-à-dire
scolaire, c'est méchant c'est... scolaire.
Non, c'est pas méchant. Scolaire, tu peux avoir des bonnes notes à l'école. Hein.
Ouais, mais c'est triste.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, mais c'est triste.
Non, mais c'est vrai. T'as des bonnes notes des fois à l'école.
Ouais, mais
donc,
c'est pas.
C'est...
Ouais, bon.
C'est scolaire.
C'est scolaire, mec.
Ouais, mais oui, c'est. Bah, je suis désolé, c'est scolaire.
Et il applique.
Avec, pour moi, une fulgurance dans le level design. Je trouve le level design,
ouais,
avec ce choix de level qui est le game design, level design, bon, la frontière n'est pas très nette.
Avec accidenté.
Ce choix de pas de carte. Donc, tu es sur une planète inconnue, et ben, tu vas l'appréhender parce que on va te faire des allers-retours vu que on est sur ce Metroidvania, donc on va te débloquer des accès, etc.
Ouais.
Donc, pas de carte. Donc, tu vas appréhender comme ça un territoire. Et ce territoire est très, je le trouve, très bien conçu.
Oui, et puis tu as la téléportation après.
Ah, donc, téléportation. Ça, c'est bien pratique quand ça arrive.
Et je trouve que, mais il est bien pensé. C'est, il est visuel et il est coloré.
Tu vois vraiment les zones différentes.
Ouais, puis l'évolution,
avec encore une fois cette inspiration, même journée de base. Enfin, moi, il y a journée dans
attention,
le nom.
Attention, quand tu parles de journée, attention. Hein.
Oui, ah, ça va.
Warning. Hein.
J'ai le droit de spoiler maintenant. Mais il y a cette inspiration de cette montagne
au loin.
Qui apparaît dès
le début.
Dit,
d'ailleurs, le jeu le dit clairement. Je ne sais pas si tu vois au loin.
Je trouve qu'il y a une fulgurance dans le level design parce que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. On a envie d'explorer.
Ouais,
on a
façon
envie
de se noter. Tu crois être sur une planète gelée au début avec juste des petites créatures, puis tu te rends compte qu'il y a une civilisation. Tu découvres que plus tu avances, il y a une logique dans l'évolution géographique de la carte.
Ouais,
il y a une narration là-dedans aussi.
Et pour le reste, je trouve ça scolaire, c'est-à-dire qu'il y a, on voit la matrice, on voit le cahier des charges.
D'ailleurs, il y a vraiment une matrice quand tu appuies sur le bouton de scan.
Ouais,
tu rentres vraiment dans une sorte de matrice.
On a l'impression de voir le cahier des charges de game design, la bible de game
design. C'est peut-être
l'ADN
aussi. Je te parlais du casting, un peu l'espèce de Dream Team qui visiblement est derrière le studio. C'est des gens qui ont aussi des années de production dans des grands studios.
Bah, ça doit être des... Et encore une fois, scolaire n'est pas une insulte, mais c'est des très bons faiseurs.
Ouais,
c'est des très bons
qui
faiseurs.
Qui amènent les ingrédients. Je pense que voilà...
Et alors,
ils ont jonglé avec les
recettes. De là, j'ai un peu tardé pour le dire, mais de là à m'inscrire en faux par rapport à ta première réaction, Patrick, je trouve que les vidéos sont aussi scolaires. C'est-à-dire que l'humour est scolaire.
Ça fait très 90.
Ça me fait
très
cahier des charges. Ouais, on va faire des vidéos publicitaires à la Robocop, Verhoeven, machin. Ah, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Ah, bah allez, on va faire un truc. Je trouve ça. C'est bien fait.
Sont très bien faites. Elles vont très loin.
Mais c'est comme le jeu.
Mauvais goût quand même.
C'est un humour que tu connais déjà. C'est des blagues que tu as l'impression. Non, je suis désolé. Il n'y a que des blagues que j'avais déjà l'impression d'avoir vues. J'ai
trouvé ça. Le truc de viande, tu l'as déjà vu, toi ?
Non,
j'ai jamais vu ça.
Non, mais j'ai pas vu. Mais je me souviens.
Le centre commercial.
Non, mais je me souviens. Non, mais c'est. T'as déjà eu ce sentiment.
Mais oui,
sentiment.
C'est une recette, c'est un truc coché dans un listing. Oui. On est d'accord, les vidéos marrantes. Mais oui.
C'est les vidéos marrantes de SF.
Mais bien sûr.
Je suis désolé, j'ai déjà vu ça dans des films.
C'est ce que je disais, c'est un cocktail où ils ont su piocher des trucs à droite à gauche.
Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à l'ambiance de quand j'étais petite et je regardais des films. C'était un peu Maman, j'ai rétréci les gosses ou quelque chose comme ça, quoi.
Oui, mais et c'est que des trucs. T'as des voilà,
cet humour un peu.
Et t'as ce sentiment de déjà vu.
Très 90s quoi. L'humour 90s. Il y a un truc à cerner là.
Et t'as un sentiment de déjà vu comme ça qui court. Alors que voilà, il reste cette fulgurance exploration level design qui est vraiment très très bien fait. Après voilà, c'est scolaire, tout à fait sympathique. Hein. J'ai vraiment aucun.
J'ai du mal avec le mot scolaire sur les vidéos d'intro quand même, qui sont qui sont quand même
Bizarrement, bien trash avec l'ensemble du jeu, j'ai trouvé que elle rentrait très bien dans cette scolarité. SF option LOL
et contrôle aussi qu'on a vu. On a vu un usage il y a pas très longtemps de séquences vidéo comme ça intégrées dans des décors de jeu. Ouais. Ça c'est aussi un exercice bien particulier. Mm. Mais c'était un autre ton, on va
dire. Ces jeux-là, t'écoutes beaucoup trop dans Silence on joue. Ils se sont dit ah FMV, c'est la tendance. Patrick Hélion on parle.
Voilà. En 2020.
Voilà. Mettez tout le monde sur de la FMV.
Il faut.
Donc Journey to the Savage Planet sur console et PC. Moi j'ai joué sur PC mais en manette parce que c'est très bien. En
ah ouais, du coup je l'ai fait.
Moi j'ai Xbox.
D'ailleurs, il faut reconfigurer les touches. Il faut repasser par le truc tab machin. C'est mal fichu ça. Il y a pas, je l'ai pas trouvé dans le jeu en tout cas. Ah. Donc il faut faire le tab. Je sais plus la manip là. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire.
Alors le jeu suivant vient de sortir là tout juste aujourd'hui, le jour où on enregistre. Nous enregistrons ce jeudi matin. D'après ce que j'ai compris, parce que tu es seul à y avoir joué, Camille, il y a une histoire de bibliothèque, il y a une histoire de livres disparus, il y a une histoire de il faut retrouver les pages du grand livre magique qui a disparu. Le livre des livres, ça s'appelle Bookbound Brigade.
Its bookbinding is becoming untangled and unbound. Pages containing entries and facts are getting lost. If Bob is destroyed, the literary world will blink out of existence. Now, we need your help. Find these missing pages. Find Bob and save the literary world. To assist you, the Bookbound Brigade. Good luck. You bleeding well need it.
Il y a un sujet sur ces voix off british façon Monty Python.
J'adore. Non,
c'est trop bien. C'est trop bien.
C'est scolaire.
Oh.
Ah,
t'as pas aimé.
C'est triste, je trouve. Qu'il est...
T'as pas aimé l'école.
C'est pas ça, mais je trouve que l'étiquette.
Traumatisme de l'école.
T'as un traumatisme.
Ouais.
De l'école.
Qu'on fasse
on en parlera.
Bookbound Brigade, donc on est sur du pixel, on est sur de la plateforme aventure
2D. Ouais, Metroidvania même.
Metroidvania.
Ouais. Donc voilà, donc le grand livre des livres dans la grande bibliothèque sacrée de l'humanité a été volé et piétiné. Du coup, il y a toutes les pages qui sont éparpillées dans le monde. C'est le chaos. Les personnages historiques, les personnages de littérature sont perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Enfin, c'est une catastrophe, mais du coup, on a une petite brigade de 5 personnages au début. Donc il y a Robin des Bois, il y a le roi Arthur, Dracula et je ne sais plus. Bref, ils sont en fait tes 5 personnages, mais ça forme une seule unité qui se déplace.
Ah oui, c'est ça. C'est un petit. En fait, tu contrôles un groupe de personnages.
Tu contrôles un groupe de personnages. Donc le but, c'est de retrouver toutes les feuilles qui ont disparu.
Mais en mode plateforme.
Ouais,
c'est ça.
Et du coup, tu dois retrouver les pages qui ont disparu du livre. Et puis tu dois retrouver aussi les personnages soit historiques qui ont vraiment existé, soit fictifs de la littérature pour leur rappeler qui ils sont, hein, et les sauver parce qu'ils te donnent des missions à accomplir.
Ça c'est un fil rouge, ça c'est un moteur.
Voilà. Et tu as le narrateur du coup qui t'explique tout ce qu'il faut faire et qui rappelle à chaque fois aux personnages ce qu'ils doivent faire. Donc t'as la grande bibliothèque où tu peux aller, elle est très grande, dans cette bibliothèque tu as des vortex qui t'emmènent dans des zones un peu particulières. T'as par exemple les contes médiévaux, tu as la piraterie, à chaque fois c'est très thématique.
Ah, donc c'est assez marrant parce que cet univers narratif qu'on peut prendre pour une excuse de départ finalement sert comme univers de conception de jeu, en fait.
Oui, c'est
de
ça.
Level design et de... Oui, d'accord.
Oui, et puis les vortex, c'est des livres, en fait.
D'accord.
Donc, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, tu vas gagner des capacités, comme le double saut. Et tu changes aussi ta formation. C'est-à-dire qu'au début, tu formes une espèce de petite montagne. Et en fait, tu peux, au fur et à mesure, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir te mettre... tout à la verticale.
Donc mettre tes personnages les uns au-dessus des
autres.
Voilà,
ou tout à l'horizontale, former une roue pour avancer plus vite. Donc ça, c'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure.
La traîne.
Sachant que du coup, L'idée, c'est que voilà, tu formes une équipe et c'est l'équipe qui fait que...
Tu finis avec combien? Parce que tu m'as dit que tu commençais avec 5 personnages.
Tu vas jusqu'à 8, en fait.
D'accord.
Que tu rencontres au fur et à mesure de la partie.
Et tu peux composer ton équipe avec une fois que tu as 8...
Non, parce que
c'est ça qui est
assez frustrant, c'est que tu as les personnages jouables et tu as les personnages non jouables que tu rencontres. Alors, tu peux rencontrer, par exemple, Jeanne d'Arc. Et c'est à chaque fois avec un ton décalé et l'humour. Par exemple, Jeanne d'Arc, elle a peur du feu. Donc, il faut que tu lui retrouves une armure anti-feu.
D'accord.
Donc, voilà. Et donc voilà, donc c'est un Metroidvania, donc c'est très labyrinthique. Et
c'est sur du plateforme 2D.
Voilà,
classique.
C'est 2D. Et en fait, du coup, voilà, c'est un Metroidvania, donc tu sais qu'il y a des endroits, tu reviendras plus tard quand tu auras trouvé, quand tu auras débloqué tes capacités. Donc c'est ça ce que je disais aussi. Donc c'est l'équipe qui te fait avancer, mais tu as aussi des spécificités selon le personnage. Tu as Robin des Bois avec son arc qui peut... en fait, ça, c'est tu le vois, tu as tout un arbre de techniques en plus des compétences, et tu vois chacun comment il peut s'améliorer. Donc ça, c'est très bien, c'est très varié, ça t'as une impression de progression qui est très intéressante, mais...
Je suis hyper déçu. Voilà, c'est le moment que je redoutais, c'est ton mais.
Le problème, c'est que tu as une combinaison de touches super importante et super galère, ce qui fait que pendant les combats, tu oublies parfois c'est quelle combinaison qu'il faut enclencher pour prendre telle formation, et du coup, ça devient un petit bazar quand même. Donc, plus ça va, plus t'en as, donc ça devient un peu compliqué à intégrer.
C'est-à-dire qu'il y a des combos, genre il faut apprendre tous les moves de Street Fighter 4, quoi.
Bah, c'est ça en fait. Oui. Parce que selon le monstre qui apparaît, selon la position et tout ça, du coup, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, c'est l'idée est vraiment très bien, quoi. Puis en plus, moi, qui suis anciennement bibliothécaire, je veux dire, jeux vidéo bibliothèque, ça me parle bien, quoi, tu vois. Donc c'est assez sympa de retrouver des personnages historiques ou de littérature, surtout que c'est assez drôle. Enfin, c'est un humour un peu potache, et un peu avec plein de références du coup aux livres et tout ça. Donc ça, c'est très sympa. La musique est aussi plutôt sympa aussi. Enfin, l'ambiance est sympa, le sound design aussi, c'est assez drôle. Par contre, t'as un petit côté, donc c'est un Metroidvania, t'as un côté un peu vide parfois sur quand tu te balades dans les espaces. Et t'as une carte, mais c'est pas toutes les pièces qui sont représentées, quoi. C'est les ensembles de pièces. Donc du coup,
ça sert pas à grand chose.
Tu devines à peu près où t'en es, mais tu sais pas exactement où t'es.
Mais c'est rigolo parce que sur les images, cette trouvaille de finalement contrôler un groupe de personnages comme tu contrôles un seul personnage.
Mais ça, c'est très bien foutu.
Un peu comme quand tu contrôles Super Meat Boy, mais tu contrôles 8 personnages d'un coup qui sautent en même temps.
Et c'est très intelligent, je veux dire.
Des dashs en l'air en même temps.
C'est très intelligent parce que par exemple, si t'as un combat. On va dire que tu es placé à l'horizontale, tous les personnages à l'horizontale. Si tu as des monstres des deux côtés, tes personnages ils vont se retourner pour combattre des deux côtés. Ou si tu sautes sur une plateforme et que tu as la moitié qui est encore dans le vide, les autres ils vont tenir pour essayer de rattraper tout le monde. Enfin, c'est assez intelligent dans la manière de... Mais moi, j'y joue sur Switch. Et en plus des combos qu'il faut mémoriser... disons que les sticks sur la Switch, moi je suis pas très convaincue.
Ouais.
Et comme il faut être parfois très 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 précis, c'est un peu galère, quoi.
Mais c'est un peu ce que je redoutais, c'est-à-dire que quand je voyais toutes les capacités, tous les personnages qui ont des capacités, tout ça, j'étais même en regardant la description du jeu, j'étais là, mais du coup, comment est-ce que je vais déclencher la capacité de Robin des Bois, celle de Dracula, celle de machin, je comprenais pas, et c'est un peu ce que je redoutais sur la complexité des contrôles, alors que on voit bien que c'est vrai que même les jeux difficiles aujourd'hui, même les jeux un peu hardcore, on prend Céleste par exemple, Céleste. La prise en main de Céleste, autant le jeu
est simple,
peut être hyper hardcore pour choper les fraises.
On te prend la main dans
Céleste. Voilà. Et surtout,
le postulat de base est simple.
Ouais, après, tu as des gâchettes, les boutons, mais tu n'as pas 18 combos à apprendre.
Sûr,
c'est en fonction de la structure du niveau et tout ça. Il faut appuyer au bon moment sur le bon bouton. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a.
Facile à jouer, difficile à maîtriser. Quoi. Ouais. C'est le fameux adage.
Ouais.
Et là, si c'est difficile à jouer, c'est un peu...
Si t'as une porte d'entrée,
c'est un peu dommage. Ouais. C'est le petit hic. Quoi.
D'accord. Eh ben, Bookbound Brigade, donc ça sort...
C'est aujourd'hui, je crois.
Ouais, Switch et sur Steam, je crois.
Je crois que c'est sur Steam aussi, ouais.
Je crois bien. On va finir avec une ressortie sur Switch. Elle est sortie quand sur Switch ? C'était la fin de l'année, là ?
Je m'y suis penché très récemment, un peu en retard, parce que de toute façon, on a quelques mois de retard. Donc, parce que je fais une veille, hein, je fais une veille point and click. tout le monde nous parle, là, de Kentucky Route Zero, mais tout le monde en parle. Donc,
bah oui,
nous,
mais...
on va parler d'autre chose
non,
aujourd'hui.
Non, alors, je précise qu'on va parler de Kentucky Route Zero. Hein.
Il faut
parler de Kentucky.
Ouais, mais pas aujourd'hui, on se dit que tout le monde en parle, donc nous on fait autre chose aujourd'hui.
Donc on fait des jeux nuls à la place, c'est ça.
Pointu.
On va parler de Leisure Suit Larry. There's only one man who can save the day. Larry? Is it really you? Join Larry Laffer on his never-ending quest for love. I don't accept any contacts with less than 90 points. I need to have sex with as many women as possible to finally get my dream girl, Faith. Between the two of us, you still look like a virgin. The man in the white suit is back. Gênant. Ah, le truc est tellement gênant quand même.
Dur, hein.
Ouais.
Bah, c'est un personnage qu'a bossé Larry Laffer parce que c'était un de ses personnages de l'écurie Sierra Online. Hein. Sierra Online, on le situe en quelques mots, c'était le géant. Quasiment le fondateur du jeu d'aventure graphique dans les années 80 puis 90, qui jouait un bras de fer avec LucasArts. C'était vraiment deux écoles différentes. LucasArts, on connaît. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je vais en parler après, mais c'est que LucasArts a gagné une sorte de noblesse au fil du temps. C'est-à-dire que LucasArts s'est révéré comme quelque chose de quasiment inattaquable, hein, LucasArts.
Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les deux.
Et les deux se battaient. Sierra était plus scolaire quelque part dans ces jeux, et là on peut je le reprends. Non, il est un peu plus scolaire, c'est qu'on avait des jeux plutôt sérieux, ça, les King's Quest, c'était un peu gnangnan même, on avait les Police Quest qui étaient chiants.
Ouais.
On peut le dire, hein,
qui était très
procédurier, etc.
Ouais.
On avait les Space Quest qui étaient un peu plus délirants. Et puis, on avait cette sorte de troublion qui était Leisure Suit Larry, donc qui arrive en 87, à un moment où Sierra est déjà bien installée.
Et qui ressort en 91 en version point and click, en fait. Hein.
Oui, c'est, voilà,
qui est remis à jour. Parce que, pas du point and click.
Bien sûr, tu as tous les moteurs SCI, etc. de Sierra. À la base, non, c'était tu sais, leur système hybride de déplacement au curseur et saisie de texte.
D'accord.
C'était vraiment. Bah, 87, on est vraiment dans les prémices.
C'est celui de 91 que j'ai dû.
Il a eu 4-5 versions, dont une dernière via Kickstarter avec Alloy, qui était le créateur de Leisure Suit Larry, qui a profité du fameux mouvement en 2012-2013 d'arriver sur Kickstarter des pointures du point and click, qui a lancé une remasterisation qui est sortie il y a 5-6 ans de l'original aussi. Voilà. Donc c'est un personnage qui a beaucoup souffert, Larry Laffer, parce que années 80, qui a eu une évolution, qui a suivi quelque part le schéma des évolutions des jeux Sierra Online à l'époque, avec un look de plus en plus cartoon. C'est vrai qu'on avait les prémices avec ce look très blocky des jeux Sierra de l'époque, hein, les premiers Police Quest, c'est vraiment du pixel, une interface un peu rigide, etc. Et puis Larry évolue vers quelque chose de plus cartoon, etc. Et puis un humour toujours bien gras, toujours bien qui va assez loin. Et pourquoi je dis que le personnage revient de loin, parce que en fait je crois que j'avais noté 96, c'est le dernier volet canonique de la saga Larry, piloté par Al Lovie, donc le créateur du personnage, qui en 96 signe, attention, Drague en haute mer. Un volet qui se passait donc sur un bateau de croisière qui tentait pas mal de choses intéressantes d'ailleurs pour faire entrer l'image du joueur dans le jeu. C'est-à-dire que tu pouvais scanner une photo digitalisée de toi-même et te mettre dans le jeu, tu pouvais échantillonner du son, et puis il y avait ces fameuses cartes à gratter dans la boîte où tu avais donc des odeurs qui ressortaient. Ça marchait pas très bien, mais en tout cas il y avait une idée. Voilà, c'est Sierra dans ses grandes œuvres qui essaie d'innover, d'apporter des choses un peu folles au point and click, qui est plutôt un support. Je vous vois me regarder avec des yeux.
Ah non,
alors pourquoi je dis que le personnage était complètement perdu, c'est qu'après donc cet ultime volet piloté par Al Lovie, on a des versions 3D. On a en 2004 un volet où on suit plus le fameux Larry Laffer, mais son neveu. Alors le neveu aura bon dos, puisqu'on va avoir un jeu en 3D abominable en 2004. Et puis en 2009, on suit encore son neveu chez un jeu qui est développé par Team 17, un jeu de plateforme
horrible.
Voilà, qui est Enfin, ils sont complètement atroces. Où on perdait l'intérêt de bah, l'ADN de ces jeux d'aventure point and click avec avec vraiment ce qui faisait le fait que voilà, le fait que c'était vraiment un de ces titres qui faisait partie du bataillon Sierra. Il y avait un équilibre pour moi chez Sierra, c'est-à-dire que Larry c'était à l'opposé du catalogue, sur un côté déconnant, blagueur, pas toujours de très bon goût, qui faisait vraiment écho et qui équilibrait le côté sérieux, voire aussi glauque dans un autre sujet, dans un autre domaine, des Police Quest qui au fil du temps vont aussi devenir de plus en plus cru avec des visuels de l'échantillonnage de vidéos, de photos. Voilà, c'est pas toujours, ça peut parfois malaisant les Police Quest, surtout les derniers. En tout cas, voilà, il y avait tout ça, donc c'était cohérent. Pour moi, Sierra, à l'époque, il y avait une petite cohérence de gamme avec des jeux qui partaient un peu dans tous les sens, mais qui se répondaient avec des univers finalement assez différents. Donc là, on est sur, je crois, un jeu qui est sorti il y a un an et demi maintenant sur PC, si je dis pas de bêtises, qui a été adapté après sur console. Al Lovey n'est plus aux commandes, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'auteur des premiers Larry, qui lui avait aussi toute une histoire chez Sierra, parce qu'il avait bossé sur le jeu Taram, sur des jeux Disney. Il venait de l'éducatif, ce monsieur, une personnalité, enfin lui c'est une vraie personnalité, un saxophoniste. Alors, c'est vrai que les jeux avaient aussi, il y avait pas mal de musique dans ces jeux, et puis bah voilà, il y avait l'humour très particulier de Larry Loeffler, donc ce personnage de 40 ans, vieux garçon avec son costard bon marché, qui se réveille un bon matin, qui se dit bon bah là il faut que je passe à l'action. Voilà, c'est ça Larry Loeffler, vous connaissez
c'était déjà pas top en 87.
C'était frondeur. Pour moi, c'était frondeur dans l'écurie Sierra. C'est ce qui en faisait un titre intéressant. C'est que vraiment, c'était une sorte d'avenir. Pour moi, qui est sorti au bon moment aussi pour un peu donner la réplique au LucasArts. C'est-à-dire qu'en face, tu avais Maniac Mansion qui déboulait. C'était bien qu'ils se dotent à l'époque d'un jeu qui déridait la grande fabrique Sierra à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait un jeu complètement, complètement déconnant, pas toujours très bon goût. Encore une fois, je parlais d'équilibre, mais pour moi, c'était vraiment malin lancer ce jeu-là à ce moment-là.
Mais le truc, c'est que moi, pour y avoir joué à l'époque, c'était quand même pas super à l'époque déjà. C'est ce que je disais, on en a parlé avant l'émission, mais c'est vrai que j'ai développé une sorte de rancœur vraiment sur les Leisure Suit Larry.
Sur les Leisure Suit Larry, donc.
Ouais, en particulier. Pas sur Sierra en général, parce qu'il y avait les Space Quest auxquels j'accrochais plus ou moins. J'étais vraiment pas de l'écurie Sierra, mais bon. Et en fait, j'adorais. C'était vraiment l'époque 90-91, Monkey Island,
là où Lucas explose.
Voilà, les 4-5 années.
Où
les point and click, c'était le genre de jeu, mais c'était, t'en attendais dès que t'en avais fini un, t'avais envie d'en faire un autre. Et donc je faisais donc tous les LucasArts, et puis après je regardais les Sierra, et puis il y avait ces Leisure Suit Larry. Quand il y avait plus rien d'autre, tu faisais les Leisure Suit Larry. Et c'était gênant. Enfin, t'étais pas à l'aise de jouer avec ça, parce que blagues étaient nulles, parce que c'est même pas la peine de parler de la représentation des femmes là-dedans.
Enfin, attention, tu as l'apparence, c'est vrai que t'as un coureur de jupons, un dragueur des supermarchés qui fait tout ce qu'il peut pour draguer la gente
qui arrive jamais, évidemment, mais
c'est compliqué, c'est un vrai loser. Justement, derrière, t'as aussi la peinture d'un pauvre type. Quand tu commences un peu à gratter le vernis de Leisure Suit Larry, t'as un pauvre type qui hante comme ça les bars louches. Et puis, t'avais aussi, bon, à l'époque, c'est tout bête, mais ce sont aussi les années SIDA, et t'avais aussi un jeu qui te parlait des rapports protégés. T'avais des choses qui passaient dans ces jeux-là.
Mais les femmes, dans ce jeu-là, que des objets sexuels là que pour ça.
Mais qui envoyaient bien paître Larry.
Des objets inaccessibles. Objets.
C'est pour ça que c'est un fossile. C'est un fossile. Et pour moi, t'as l'impression qu'il sort d'un morceau d'ambre. Ce personnage, il est vraiment gelé dans ces années 87-90. C'est une sorte de relique de l'époque. Donc c'est pour ça, évidemment, quand j'ai vu qu'un nouveau Larry, après ses mésaventures catastrophiques de genre 3D, dont on ne va même pas parler, avec un retour là donc sur celui-ci à du point and click pur et dur, c'est qu'on revient vraiment à une mécanique traditionnelle, genre 2D, avec vraiment le truc de l'époque. J'y suis franchement allé en pinçant le nez, en disant bon, je vais quand même voir, parce que voilà, c'est un jeu Sierra. Moi, ça me touche, parce que voilà, ce sont des titres que je me plais à suivre sur la durée, bon an, mal an. Alors, il y a un twist intéressant. Moi, il y a un truc, d'emblée, le jeu, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, il prend, pour moi, c'est le truc, hein, c'est leur truc, il y en a un. Il y a un truc qu'ils réussissent dans le jeu, vraiment, et ils en rigolent pendant tout le jeu, en fait, c'est qu'ils prennent le Larry de 87. On se retrouve devant le bar, le fameux bar emblématique, hein, le Lefties, qui était le bar du début du premier jeu. On prend le Larry de 87 et on le balance en 2020. Voilà, c'est ça le pitch, c'est ça le twist du truc, c'est que tu retrouves aux commandes de Larry, mais un Larry de 87, du coup, avec tout le côté, justement, le côté, on parle d'un fossile, c'est un fossile. Ce personnage, il est paumé en 2020 et il déboule à l'ère de Facebook, du téléphone portable, de Tinder, etc. Et donc, le jeu va s'amuser. Alors, il n'utilise pas les vrais noms, évidemment, je n'ai pas noté, mais donc tu as un simili Facebook, tu as un simili Tinder, tu as un Apple qui s'appelle Prune ici, avec un. Alors, c'est quoi le grand patron qu'on croise? C'est Bill Jobs, qui est une sorte de dieu vivant révéré par la boîte. Alors, tu te retrouves. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était marrant parce que justement, ce côté prendre une relique des années 80 avec, comme tu disais, un discours complètement archaïque et complètement hors du temps. Enfin, on est en 2020, quand on sait que tout ça est complètement à la ramasse. Et justement, je trouve que le propulser dans les années 2020 et le confronter justement aux technologies d'aujourd'hui, au monde actuel, quelque part, ça embarque le côté anachronique du jeu. C'est-à-dire qu'il se met lui-même en scène, qu'il met en scène l'anachronisme de ce personnage et il s'en moque, en fait. Il s'en moque.
Mais entre nous, là, personne ne nous écoute et tout ça, il aurait pu y rester.
Et c'est la grande question.
Non,
franchement, je vais être honnête, je trouve que le jeu est un point and click honnête dans sa facture. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur très vite des recherches d'objets très classiques. Tu vas aller chercher un truc, tu as des énigmes, etc. Franchement, même visuellement, on est sur du cartoon. Tu vois, c'est plutôt. Alors, tu as des vrais points de mauvais goût parfois. Où... C'est drôle, oui, effectivement, les trucs qui pouvaient te faire marrer il y a 25 ou 30 ans, tu te dis ah ouais, quand même, c'est quand même. C'est vraiment très, très, très spécial. Après, voilà, le point and click en lui-même est plutôt jouable. Moi, je le fais sur Switch, donc tu as le côté tactile qui...
Alors, entre la dénomination scolaire et la dénomination jouable... ouais, le truc est jouable.
Le truc est jouable. Alors après, moi, j'avoue que je suis bon public pour les point and click. J'avoue que je suis bon public.
Donc
là, t'as tous ces systèmes. En plus, encore une fois, ils ont intégré tous ces, tu sais, ces trucs de hubber, etc. Je ne sais plus comment ils l'appellent dans le jeu, mais t'as ce système où tu te déplaces comme ça t'as une appli, en fait, t'as un téléphone intégré, etc. Donc ça est plutôt rigolo. Après, c'est pas un bon point and click en soi. C'est pas un grand point and click. C'est pas un grand jeu. C'est vraiment pour les nostalgiques qui vont se retrouver dans ce monde. Qui est un peu le cul entre deux chaises. Et je comprends ton malaise face au jeu, parce qu'effectivement, t'as ce reliquat d'années 80 où Larry était une sorte d'ovni qui était... Il y avait une fulgurance, tu parlais de fulgurance tout à l'heure, il y avait une fulgurance Larry Loffer à l'époque, parce que c'était le point and click qui commençait à être conscient, qui racontait des choses, qui se mettait en scène aussi. Là, je crois que c'est dans le 3 où il se balade dans les... C'est fascinant, dans le 3, je crois qu'il se balade dans les plateaux de tournage des jeux Sierra. Une mise en abîme, c'est-à-dire que le point and click se mettait lui-même en scène. C'était assez fascinant, ça. Larry se baladait dans les plateaux de tournage. Malgré tout, voilà, le propos très années 80 avec la place de la femme qui pose beaucoup de questions, tu te retrouves là avec une sorte de mélange. On critique les années 2020, on s'en moque. Il y a des vraies pointes marrantes où à un moment, tu dialogues avec une nana au début du jeu, puis elle te regarde même pas, elle est sur le téléphone, elle est sur ses applis et lui, il comprend pas. Tu vois, donc, t'as tout ce discours un peu, tu vois, pas réac, mais qui dit c'est quoi les nouvelles technologies aujourd'hui sur un perso comme ça des années 80 qui est complètement à la ramasse. Tout le monde lui dit mais tu viens d'où, tu t'es paumé dans ce monde en fait. Donc ça m'amuse, tu vois, ce côté personnage anachronique qui déboule en 2020. Après, voilà.
Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à sauver quand même. Hein.
Non, mais je m'as pas convaincu. Ouais.
C'est vrai, là, c'est drôle. C'est drôle. Mais oui, je pense que voilà, je pense aussi que le point de vue des joueuses, évidemment.
Non, mais c'est quand même assez terrible que j'ai pu jouer à ce jeu dans les années 90 alors que j'étais toute petite.
T'as joué auquel est-ce que tu te rappelles auquel tu as joué?
Je sais
premier...
plus. C'était sur disquette.
Peut-être l'oreille.
Non, c'était peut-être les premiers. Le premier,
les remasters du premier.
Non, le premier. Moi, je me rappelle juste qu'il y avait une femme dans un bain de boue.
Ah, c'est peut-être le premier.
Ouais. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué.
Et t'en as quel souvenir, justement? Alors, toi, t'étais toute jeune quand il jouait, alors?
Bah oui, non, mais... En fait, je me suis mise à y jouer parce que j'avais aussi The Day of the Tentacle, que j'avais adoré.
Ah,
et j'avais joué, j'avais joué, et j'avais envie de rejouer un point and click. Et j'avais ce jeu-là, et je fais, ah, mais c'est pareil, allez, c'est bien. Et
puis, avec le bon humour, bien potache, bien...
Bah, oui, mais quand t'es enfant aussi, tu vois un peu de... Voilà, de sexualité, t'es là.
Il y a un côté.
Oh,
ouais. Ah, mais on l'a pas.
Non, c'est mais vrai, c'est ça.
Tu as raison. Tu le dis, il y avait un parfum d'interdit sur les Larry, il faut se rappeler.
Ah, bah oui.
C'était presque.
Je me rappelle, j'étais un peu mal à l'aise, quoi. Je jouais quand il n'y avait pas mes parents à côté, quoi. Mais...
Là, ils l'ont repris, d'ailleurs. Ils reprennent pas mal du jeu original. Tu sens qu'il y a une révérence. T'as de la musique jazzy, comme l'auteur original le faisait. T'as un questionnaire au début pour s'assurer que t'as bien plus de 18 ans. Tout ça, ce sont des clins d'œil. Hein. Un jeu qui était. Il y avait un parfum d'interdit, effectivement, tu fais bien de le dire. Sur ces jeux-là, il y avait un côté un peu transgression,
bah,
d'autant
je savais
plus...
que c'était pas normal que je jouais à ça, j'en avais conscience, j'en profitais quand même.
C'est marrant, et c'était pas la transgression à la LucasArts qui lui partait dans des univers eux-mêmes qui étaient fous. Là, c'était une transgression au sein de l'écurie Sierra, ouais, donc moi, c'était intéressant. Pour ça aussi.
Bah, c'est là que j'ai compris que le jeu vidéo, c'était pas forcément que pour les enfants.
Ouais. Après, voilà, ça restait.
Mais moi, j'avais
je
me rappelle, juste pour finir, parce que j'avais l'impression que cette transgression leur permettait d'être nuls.
Ouais.
Non, enfin.
Si, c'est-à-dire qu'en fait, il disait, on transgresse, on fait du cul là où personne n'ose le faire. Mmh. Bah, et donc, en fait, ils n'avaient pas la contrainte d'être bons.
C'est des comportements qu'on a encore aujourd'hui.
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y avait vraiment, il y avait des choses qui passaient dans ces jeux-là. Ils sont très critiquables, ils sont très datés aujourd'hui quand tu te retrouves. Et c'est vrai que ce jeu, il a un vrai côté anachronique, justement, sur ce clash 2020 et 87. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et le jeu l'embarque complètement, tout ça. Même dans ses mécaniques très old school de point and click. Et ça, je me suis demandé d'ailleurs, tiens, justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'est-ce qui est devenu Sierra finalement? Qu'est-ce qu'on a gardé? LucasArts, t'as des rééditions continuellement, on en parle à longueur de temps.
Bah, le temps.
Sierra, qu'est-ce qu'on en a gardé? Et tu vois, j'ai un peu regardé, on a eu quoi? On a eu un King's Quest en série qui était pas bon du tout, je sais pas, vous vous rappelez, c'était pas bon, il était en épisode, je sais pas si vous vous rappelez, dans la grande époque post The Walking Dead, on a vu un King's Quest, mais bon, qui a complètement disparu.
Je crois qu'ils se sont occupés des Spyro aussi à un moment.
Ah, Sierra, tu veux dire?
Ouais.
Ouais, c'est vrai que moi je parlais du Sierra, pas le label.
Vieux,
moi je parlais du, tu vois, la tradition jeu d'aventure
oui,
Sierra.
Voilà,
bien
mais
sûr.
Après, après c'était une marque.
Ah, le label, bien sûr. Il y a eu du Crash Bandicoot de Sierra. Ouais. Moi je parlais, tu vois, vraiment de la tradition de jeu d'aventure. Et c'est pour ça, je parlais. Elle est noire, pour moi, c'est un descendant de Police Quest. Je refais régulièrement Elle est noire. J'ai besoin d'en parler parce que là, je suis en train de le refaire sur PS4. Plus j'y rejoue et je trouve ce jeu fascinant. Et pour moi, c'est un descendant de Police Quest avec ce côté, tu sais, très procédurier, très, tu vois, enquête sur le terrain, etc., discuter avec les gens. Et pour moi, Elle est noire, c'est. Pour moi, j'y vois en tout cas une déclinaison de Police Quest, plutôt vertueuse en plus. Là, évidemment, Larry, qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça? Bah, pas grand-chose, à part ce côté racoleur de l'univers. Dans ses mécaniques, il n'en reste pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un géant, Sierra, qui, au final, on en parle moins, j'ai l'impression, aujourd'hui. En tout cas, sur l'âge d'or du jeu. C'est les gens, quand même, qui ont créé ce genre. Ils l'ont lancé. King's Quest, c'était un monument. C'était un vrai monument, King's Quest. Mais qu'est-ce qu'on en garde aujourd'hui? La question reste ouverte. En tout cas, voilà, c'est peut-être. Je pense que c'est le dernier. Je pense que là, c'est un dernier sursaut de Larry. On sent qu'il n'y a plus grand-chose à en dire. Je vous dis.
S'il vous plaît, oui.
Ah, plaisir.
Passons à autre chose.
Mais après, c'est vrai que ça manque de finesse et t'as vraiment des blagues grivoises où tu dis oh non. C'est, ouais, vraiment.
C'est lourd. Hein.
Ouais, c'est pas toujours d'une finesse absolue, malheureusement.
C'est
vraiment pour les oreilles et les yeux avertis, il faut quand même bien le signaler. Ça a beau être cartoon, c'était aussi ça le jeu de Larry à l'époque. C'était un look cartoon, mais attention, derrière, il y a c'est peut-être pour ça que tu y as joué.
Bah oui, moi, c'était comme Maniac Mansion.
Et tu n'étais plus jamais la même après.
Bah, je pense que ça m'a marqué, ouais, mais pas dans le bon sens.
Non, mais c'est sûr que ça laisse des.
Ouais. Bon,
à voir, en tout cas, une étrange curiosité anachronique. Mais en tout cas, c'est le premier Larry sur cartouche et c'est sûrement le dernier à sortir avec la Switch.
J'ai tellement hâte de parler de Kentucky Route Zero maintenant.
Ça nous a tous donné envie de lancer. C'est bien.
Donc on abordera sans doute la semaine prochaine. C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais il faut répondre rapidement parce que je sais même pas. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Camille?
Eh ben, j'ai lu pour elle toute femme contre la prison de Gwenola Ricordo, qui vient de sortir. Et donc rapidement, c'est se poser une question qu'on ne se pose pas dans notre société, c'est est-ce que la prison, ça sert à quelque chose ? Est-ce que les peines servent à quelque chose ? Le droit pénal sert à quelque chose ? C'est une question qu'on se refuse de penser.
Sauf chez les libertaires. Les anards, ils sont hyper forts pour poser ce genre de questions et faire des bouquins et tout ça.
Et mais à part les anards, il y a pas... Là, elle prend le risque de le penser aussi sur, d'un point de vue féministe. Et avec le féminisme actuel...
Après, elle arrive.
Qui est, le féminisme actuel qui est majoritaire, on va dire, c'est impossible. C'est un féminisme très carcéral et punitif. Et du coup, c'est assez dur. C'est la première fois que je me pose vraiment... Je me plonge dans cette question de l'abolitionnisme pénal. Et ça me bouscule beaucoup, en fait, dans mes...
Super intéressant.
Mais c'est très, très intéressant. Ouais. Après, là, c'est surtout, comme elle le disait, j'ai pu discuter un peu avec elle, c'est qu'en fait, c'est un livre qu'elle a eu besoin de faire pour... parce que ça fait 15 ans qu'elle travaille sur ces questions. C'est un livre qu'elle a eu besoin de faire pour dire, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé. Elle s'inspire beaucoup de ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'ils sont un peu plus avancés sur ces questions-là. Et a dit, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi ça marche pas la prison, voilà pourquoi c'est pas bon pour les femmes finalement, si on essaye de voir un peu vraiment ce qui se passe. Elle parle aussi de ceux qui accompagnent les prisonniers, donc les familles, les proches. Mmh. Et c'est surtout les femmes en fait qui s'occupent de ça. Et en fait, finalement, tu y réfléchis, tu dis mais oui, sauf qu'à la fin, tu es un peu frustrée parce que tu te dis, mais on fait quoi en fait? Alors, elle donne quelques pistes de choses qui se passent, qui sont expérimentées aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais du coup, c'est pas suffisant. Et j'ai envie de lire et de réfléchir encore plus à ces questions pour essayer de trouver des solutions, quoi, parce que c'est bien, c'est vrai, c'est vrai ce qu'elle dit en fait. Finalement, c'est logique, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi?
C'est toujours bien d'être confronté à ces biais cognitifs.
C'est ce que j'adore, c'est comme ça que ma pensée elle évolue aussi, quoi. C'est de me confronter à...
Tu peux rappeler le titre?
C'est Pour elle toute, femme contre la prison.
D'accord, Patrick.
Cinéma, je suis allé voir Underwater, alors en fait, c'est Alien sous l'eau. Pour faire simple, pitch, je ne vais pas trop spoiler, c'est avec Kristen Stewart qui fait bien le job en premier rôle action, et Vincent Cassel, notre Vincent Cassel national qui apparaît. Alors moi j'ai bien aimé l'expérience, ce n'est pas un film qui essaie de refaire le genre du... Voilà, sous l'eau, personne ne vous entendra crier, on va dire. C'est vraiment, tu retrouves des choses de Alien, mais c'est... Moi ce que j'aime, c'est film d'une heure et demie, il n'y a pas de gras. C'est-à-dire que t'as pas de longueur d'exposition. C'est-à-dire que le film, dès la première minute, il te balance dans le truc. Tu vois, pendant une heure et demie, t'as pas de temps mort. Et ça, j'apprécie, tu vois, sur le film de genre, d'avoir quelque chose de... Voilà, qui est très, très... qui va à l'essentiel. Le truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé, c'est pendant tout le film et vers la fin encore plus. Mais vraiment, à la fin, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un script d'un... Pour moi, c'est un... Je ne veux pas spoiler, mais pour moi, c'est un Cloverfield Origins qui aurait été sabordé, qui n'est pas sorti. Enfin, vraiment, j'y ai vu des...
Non, j'ai vu d'autres personnes parler de ça.
Ah, mais vraiment, j'adore en plus l'univers Cloverfield qui était fascinant à l'époque. Ce film qui était sorti, tu sais, avec des sites internet, avec toute une mythologie. Et tu avais notamment cette histoire de forage. C'était une des pistes pour peut-être expliquer l'arrivée du fameux monstre. C'était de forage très profond. Et là, t'es là-dedans. C'est-à-dire que tu es sur des forages 10 kilomètres de profondeur, et puis évidemment il se passe des choses, et t'as un film qui va en crescendo, c'est-à-dire que tu commences avec des apparitions à la Alien, et puis ça va très très loin, je vais pas en dire plus, mais ça va assez loin sur la fin, et pour moi c'est vraiment troublant, t'as quelque chose évidemment de très Lovecraftien dans tout ça, et ça aurait vraiment pu être accordé à l'univers Cloverfield. On se rappelle qu'il y avait eu Overlord aussi à un moment, qui avait été, il y avait des rumeurs, est-ce que ça sera Cloverfieldien ou pas, ça ne l'a pas été, et heureusement ça n'avait pas grand-chose à faire avec. Là par contre, celui-ci, il y avait vraiment quelque chose à faire pour le accordé, c'est pas le cas, mais moi je recommande si vous aimez ce genre d'univers assez, il est assez prenant, je trouve qu'il est bien fichu, en plus il y a un acteur de Cloverfield dedans, Hud, tu te rappelles de Hud, c'est lui qui filmait, il s'appelait Hud, parce que c'était l'interface,
ça fait un moment,
on le voyait pas beaucoup puisqu'il filmait en fait le garçon, et là il joue dedans, donc pour tout le film, j'ai dit, mais à la fin, il va y avoir. Non, bon, je spoil pas, mais je recommande.
Ouais, si ça se trouve, ils vont nous faire un truc. En fait,
je m'attendais à un truc un peu surprise, ou alors j'ai loupé quelque chose, mais non, mais en tout cas, je recommande vraiment bien ficelé. Ouais, chouette.
J'ai rien lu, vu tout ça. Juste dire, c'est assez marrant, ça fait un an et demi, voire deux ans que je traîne un sujet dans mon travail que j'ose même pas essayer de m'y attaquer. Et là, j'ai décidé de commencer à m'y attaquer, c'est l'informatique quantique en fait.
Ouais, J'ai... Bravo. Quel courage.
On a, non, mais sérieux, ça parler
fait,
l'autre là, jour.
Sincèrement, ça fait 2 ans que ce sujet me fait flipper parce que
ouais, je comprends. Ouais.
Je dis, ah non, mais je. Et en fait, là, il y a un rapport parlementaire qui est paru il y a 2 semaines qui dit qu'il faut investir des milliards, évidemment. Et donc, en fait, voilà, je me suis dit, c'est le moment. Et voilà. Et souhaitez-moi bonne chance parce
ouais,
que c'est.
Oui, ça demande beaucoup d'efforts.
C'est bien hardcore. Et donc, je vous en reparlerai quand ça sera publié. Normalement, c'est peut-être pour mi-mars, un truc comme ça.
Ouais, bah, hâte de lire.
Et voilà. Parce qu'il faut d'abord comprendre, est-ce que ça a marché, comment
parler
ça a marché,
gens,
est-ce bah, qu'on oui, n'est ouais, pas dans un, encore une fois, dans un système de promesses qui rime à rien. Voilà, il y a plein de choses à décortiquer.
Intéressant,
dans,
bah, tu nous tiens au courant.
Ouais, je vous tiendrai au courant. Merci à tous et à la Réal, c'était Irénée, comme d'hab. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.